There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier épisode de la saison 4 d'Un Bon Moment. Merci à vous d'avoir été tellement de plus en plus nombreux à écouter et regarder cette émission sur YouTube ou en podcast à l'écouter. Je crois qu'on a passé les 100 millions d'écoutes sur Un Bon Moment, c'est énorme. Sinon, autre achievement, on a passé les 10 millions de vues sur mon spectacle Pulsion qui est disponible sur cette chaîne YouTube. Donc merci 10 millions de fois à vous. Pour ceux qui n'ont pas vu mon nouveau spectacle Une Bonne Soirée, sachez que je ne joue plus, mais il est disponible sur le site unebonneboutique.com en streaming, donc vous pouvez le voir quand vous voulez. Et en plus, il y a des bonus avec Navo pendant à peu près 2 heures. On parle des blagues, on vous explique un peu tous nos secrets de fabrique. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur unebonneboutique.com. J'en profite pour remercier Canal qui nous a permis de faire cette saison de Un Bon Moment. On vous laisse avec Jimmy Mohamed et Seth Gecko. Et franchement, moi j'étais comme un enfant devant ces deux gars-là. C'était génial. Je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve dans Hot Ones sur la chaîne du studio Bagel et on se retrouve dans un petit moment. Bisous.
Je peux dire 2 choses.
Bien sûr.
Vers, je ne sais plus exactement quelle année, on va dire, on est à peu près dans les années 2010. Je suis en train d'écouter On te nique ta mère avec le Viagra de ton grand-père. Et là, je viens de me taper sur l'épaule et dire, tu sais que tu vas te retrouver dans une émission à parler de nutrition avec cette gecko.
C'est ouf, hein. Donc, c'est dommage.
Ça vient de me faire rêver.
Ouais,
je viens de me dire, je l'avais pas vu venir.
J'ai dû en faire aussi.
On en a quelques-unes. On en commentera ensemble.
Mais je me vois écouter du cette gecko et dit, tu vas parler de nutrition avec ce gars. Voilà, je suis déjà dans ma tête, c'est pas mal.
L'émission est assez improbable, j'avoue.
J'adore.
Des êtres addictifs, les êtres humains, on est des êtres addictifs à la base.
Non, mais la privation, après, elle fait faire.
Ah oui, la frustration mène ensuite à péter les plombs. Et globalement, les gens, ils vont bien manger le matin, le midi, le soir, et puis à 22h, ils craquent. Il est 22h, les enfants sont couchés, t'as une journée un peu relou. Et là, tu te mets à manger n'importe quoi parce que tu t'es frustré toute la journée. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut se faire des plaisirs durant la journée. Mais autant assumer, je prends un vrai truc sucré en ayant conscience que c'est du sucre. Mmh. Et après, le reste du temps, voilà. Bah, bon, après, je deviens le père à la morale et tout.
Non,
le monde
Non, mais c'est intéressant de savoir. Il faut le rappeler.
Non, mais après, c'est une histoire de calories. C'est même pas de sucré, pas sucré. Tu te fixes un quota de calories. Après, c'est dur de venir à le calculer. Ça, c'est un truc. Au début, c'était impossible pour moi de lire ces glucides, lipides, tout ça. Tous ces mots-là, c'était du charabia pour moi. Je n'arrivais pas.
Protéines. Ça arrive dans ton mot, ça. Protéines.
Ouais.
120 grammes. Faut 1,5. Faut 1,5, les gars. 1,5, le protéine. Qu'est-ce que c'est que quoi?
Exactement.
Et alors, pourquoi on n'est pas tous égaux? Parce que j'en parlais avec un pote, mais j'arrivais pas du tout à l'expliquer. Parce que moi, je fais vraiment que de la merde. Et je suis grumps de ouf.
Ouais. Et ça, c'est un argument qui vient souvent. Et souvent, on n'aime pas les gens comme toi.
Bah
ouais. Qui n'importe quoi.
Mais même moi, j'étais désolé.
On voit ses abdos. On voit, il a le six-pack à l'année.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle de métabolisme,
c'est quoi, raison,
de morphologie.
Il y a un facteur génétique important. Et ça permet de déculpabiliser les gens qui sont en surpoids. C'est que, t'as fait aussi docteur LV2, c'est ça?
J'ai kiffé.
Il est en train de développer les
blueberries. Il y a 3 petits pots. Nous, on a les pots.
Moi, je suis un peu.
Et en fait, il y a un côté génétique. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est ton métabolisme. On a aussi ce qu'on appelle le microbiote, les bactéries qu'on a dans le tube digestif qui font qu'on va absorber plus ou moins de calories. Ça veut dire qu'un patient qui est obèse, réellement, ça se trouve, il mange pas beaucoup. Mmh. Et souvent, on dit, oh, espèce de menteur, c'est sûr, tu dois t'empiffrer en secret. Pas forcément. En fait, à repas équivalent, très certainement, tes bactéries à toi, elles sont plus efficaces et elles vont absorber moins de calories et elles vont les digérer plus rapidement. Ça veut dire que tu as une flore intestinale qui est hyper performante. Pour autant, c'est pas parce que t'as un poids normal que t'es en bonne santé.
Oui, bien sûr.
Et souvent, on décorrèle les deux en disant, mais tranquille, moi, je peux manger ce que je veux, de toute façon, je prends pas de poids. Or, la bonne santé, elle ne se résume pas qu'au poids. Ça veut dire qu'il faut quand même essayer d'améliorer des choses, pas pour te culpabiliser, mais pour se dire, ah, t'as quel âge là?
40.
Qu'est-ce qui va se passer à 50, 60, 70? C'est un peu maintenant que ça joue. Donc, l'idée, c'est de se dire, chaque aliment que je mange, il y a le plaisir, parce qu'on a besoin de ce plaisir, mais quel impact ça va avoir sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir? Et moi, à chaque fois que je mange un aliment, je me dis ça. Ok, je vais me faire un kiff, mais en même temps, est-ce que réellement c'est bon pour ma santé? Et quand tu pèses le pour et le contre et que tu prends le temps d'attendre 30 secondes, une minute, bah, tu te dis, bah, finalement, j'en ai peut-être pas besoin. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire les choses, mais bien comprendre que l'aliment, c'est peut-être le premier des médicaments et qu'on devrait investir beaucoup plus sur l'alimentation que sur les vitamines et tout le tralala. Voilà, c'est une façon un peu globale de voir son alimentation.
Je suis ce que je mange.
Exactement.
Et si je mange des légumes,
il y a très
si je mange que des légumes,
eh ben, t'es en super santé et tu peux avoir du muscle.
Un bête de poireau,
t'es
mon
pas
pote.
Un super
t'es un bête de poireau.
Schwarzenegger, il est végétarien, par exemple. Il mange pas de viande.
Ah oui, mais depuis quand?
Ah, depuis des années et des années.
Ah oui,
des
d'accord. Mais Mister Universe aussi, il était. Parce qu'il était stéco, ça,
à un moment. Alors, à un moment, il a consommé de la viande et à un moment, il s'est arrêté. Je sais pas quand exactement. Mais j'avais vu ce reportage, je sais pas, vous l'avez vu sur Netflix. Game Changers.
Ouais, super. Bah, sur Game la Changer, protéine végétale, ouais.
Sur les protéines végétales. Et donc, c'est de se dire, bah ouais, en fait, on peut être aussi balèze. Alors,
c'est
en
pas dans le bodybuilding qu'ils utilisent ça. C'est non. Plus dans le sport, tu sais, l'athlétisme, des choses comme ça. Mais
les footballeurs américains aussi le font.
Ceux qui sont dans le gain de masse musculaire, tu peux pas réussir en mangeant des graines ou. Tu vois, des choses comme ça, ou du tofu. Ou...
Il y en a quelques-uns qui arrivent.
Hein. Pour gagner en masse musculaire, il m'a regardé direct. T'as vu?
Non, j'ai voulu donner de la considération et un peu d'amour. J'ai dit, le pauvre, je tourne la tête vers la droite depuis tout à l'heure. J'avais envie de te donner un peu d'amour. Il n'en veut pas.
Si. Bah, masse musculaire, je me suis senti...
Les amis, bienvenue dans un bon moment. Vous l'aurez compris, on va parler de nutrition, de bonne santé, de plein de choses. Et pour ça, je suis accompagné de mon ami Navo, mais aussi de Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed et Seth Gecko.
Le professeur Punchline.
Le professeur Zdededex, si on peut dire.
Ouais, on a une passion commune.
Alors,
la patate.
C'est vrai?
C'est la patate de forain.
Voilà. Et toi, c'est le fécule.
Moi,
de
c'est
patate.
La patate, la vraie fécule. Patate.
Avec un indice glycémique super élevé. Hein.
Ben oui, mais ça reste malgré tout un bon produit.
Un bon produit, ouais. C'est très bien, cool. Plein de vitamine D.
C'est en fait c'est sous-côté la patate.
Il paraît. Potassium. Il paraît. C'est la friture qui est horrible.
Ah oui. Et ah oui.
À bannir. À bannir. Oui non. Mais
non. Non mais on a le droit de se faire plaisir de temps en temps. Comme il a dit. C'est ouais. Ça le truc. En
mais
fait.
C'est la friture effectivement le problème dans la patate.
Alors attends. Essayons de repartir. Je suis un spectateur lambda d'un bon moment. J'ai toujours mangé des trucs et ça s'est pas plutôt bien passé. Et voilà. Je prends un peu de poids. Des fois genre je mange moins. Du coup je perds du poids. Je parle de la balance. Hein. On parle pas de. Est-ce que c'est une bonne croyance déjà le poids sur la balance? Est-ce que c'est important de se dire bah moi j'ai toujours fait 70 kilos ou 75 kilos ou 80 kilos ou 85 kilos. Est-ce que c'est ça qu'il faut regarder? Ou est-ce qu'il faut se dire, non, est-ce que je mange des bons aliments?
Alors, c'est un peu les deux quand même, mais les études montrent que les personnes qui ont perdu du poids et qui vont réussir à maintenir cette perte de poids sont celles qui vont contrôler leur poids. Parce que finalement, les kilos qu'on va prendre, on ne s'en rend pas bien compte. Mmh. On les prend un après l'autre. Et au bout de 15 ans, on regarde les photos, on se dit, ah ouais, mince, quand même, là, j'étais plus mince.
Je me permets de te couper, là, en un mois, je viens de prendre 8 kilos, frérot.
Ouh, ouais, mais attends, mais t'as pris peut-être de la masse aussi, toi.
Non, pas du muscle. Je me suis laissé complètement aller. J'ai fait peut-être 3 ans en mangeant super, faire attention et tout. Et j'ai ouvert les vannes. Ah et ouais. Tu sais plus t'arrêter à ce moment-là. C'était... J'avais envie de
ça arrive à tout le monde, tous les gens qui commencent à faire aussi du contrôle à un moment donné, ça ouvre les vannes, faut pas s'en vouloir.
Et on perd le contrôle.
Tout ce à quoi je rêve tout le temps, la pizza, des fois je fais des combos mais qui ont rien à voir. Je mélange des trucs, ça se fait pas, c'est blasphème carrément sur la table.
Donc ça arrive ça.
Ça arrive
d'ouvrir les vannes, parce que excuse-moi, mais t'as quand même une carrure de diète, t'as fait de la diète, c'est obligé, ouais. Parce que t'as pas un gros ventre,
tout est venu au ventre,
plutôt
là,
fit.
Sur ce, ouais. Alors, j'étais bien il y a 2 mois de ça.
T'es pas mal, laisse-moi juger, t'es pas mal.
C'est super, c'est gentil.
Un bon moment.
Après, je fais de la bigorexie, moi je me vois des fois toujours mince, mais là j'ai vu quand même au niveau du ventre que ça c'est voilà. Ma femme, elle a fait un cauchemar. Elle me dit, en 4 ans de mariage, j'ai relâché à un moment donné, j'ai relâché le ventre. Elle a dit, choqué. Ouais, choqué. Parce que tout le temps, moi, je suis en gainage tout le temps. C'est important, ça, pour le collagène, le squelette de collagène. Donc, à l'année,
t'es d'accord gars. À l'année.
Et j'ai relâché. Je me suis détendu. Elle n'a jamais vu ça. Et là, c'est avec ma prise de poids, là, ce qui vient d'arriver. Elle en a fait un cauchemar. Elle a rêvé qu'elle avait un enfant, frère. Mais ça l'a perturbé dans son truc. C'est pas un cauchemar d'avoir un enfant.
Ouais, on attendait la
chute. Un cauchemar horrible.
Mon ventre, il a perturbé. Ça lui a fait penser à une grossesse carrément, tellement le ventre et tout, il était abusé.
Alors, le foutu pour foutu, ça arrive quand on fait un régime. Ouais. Un régime ou pas un régime, ou une diète, où on améliore sa diète tous les jours, on fait attention. Je suis de ces gens-là qui font extrêmement attention à leur diète quand je pars pas en foutu pour foutu. À un moment donné, on craque.
Exactement.
On fait quoi? Foutu pour foutu? On se dit, c'est pas grave, on continue, on reprend les habits de demain.
Plus loin tu vas dans le foutu pour foutu, plus dur ça va être de revenir en arrière, en fait, c'est ça.
Ah, d'accord.
Il y a des études qui le montrent que le foutu pour foutu, il est vraiment terrible. Et qu'à partir du moment où on sait que, on l'a tous connu, d'ailleurs, c'est valable même pour au-delà de l'alimentation. Si on est en retard sur le travail, On se dit, non, mais là, de toute façon, vu le retard que j'ai, c'est mort. On a oublié de payer, je sais pas, une facture. Ça fait 15 jours. Bon, de toute façon, maintenant, ça peut attendre une semaine de plus. Et on retarde l'échéance en permanence. Mmh. Et pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. D'où l'idée, eh ben, de contrôler son poids régulièrement. Moi, je me suis fixé une balance un peu, chacun fixe sa règle, mais je me dis, je fais 70 kilos, je m'autorise jusqu'à 72. À 72 kilos, je me dis, il se passe quelque chose. Et quand je regarde dans le rétroviseur des 15 derniers jours, ouais, je sais que j'ai moins bien mangé, j'ai moins bien dormi, j'étais beaucoup plus stressé. Et je me dis, non, ok, j'ai pris plus de kilos, et ben, je vais essayer de rétablir la balance pour arriver à mon poids de forme. Ce qui permet d'éviter de prendre kilo après kilo, année après année. Et moi, je suis arrivé comme ça à plus 12 kilos en 2 ou 3 ans, mais sans m'en rendre compte. Donc l'idée, c'est de ne pas attendre, entre guillemets, que ce soit trop tard. Et il faut se contrôler régulièrement. Je pense qu'une fois par mois, c'est raisonnable. Au-delà, c'est plutôt peut-être les sportifs, qui veulent prendre de la masse comme toi.
Non, parce que j'allais dire, entre 70 et 72, t'es d'accord que t'as ton poids varie dans le mois? Parce que moi, je connais des gens qui se pèsent tous les jours.
Ah oui, c'est
et
absurde.
Et qui paniquent.
Ça dépend, c'est avant ou après la crotte, déjà.
Non, mais tu vois, il y a plein de trucs.
Bah, l'eau aussi.
Un kilo de crotte.
Le taux de flotte aussi dans l'eau.
Mais même, j'avais vu des trucs où le matin, t'es plus...
Exactement. Et même le cycle menstruel. Une femme, au moment de l'ovulation, elle va faire de la rétention d'eau et donc elle va être un peu plus grosse.
On est d'accord qu'un écart de 2 kilos.
Ouais, mais moi, c'est ma limite.
Non, mais c'est pas toi que je critique. Ça veut dire que là, je pense aux gens qui nous écoutent.
Eh ben, 2
kilos,
c'est quand même...
personne, l'idée, c'est pas de dire je me pèse tous les jours.
Ah oui, surtout pas tous les jours.
Et si je suis à 72, je panique. Et non. Si je suis à 69, je suis content, parce que j'ai l'impression que cet écart, cette variation,
fois,
elle est...
Mais pour savoir peser des choses, des poids.
Mais
et
juste
tu te rends compte comment...
C'est ça, ce qui est important, c'est une fois par mois, quoi.
Et derrière, j'ai dit, juste après, je regarde dans le rétroviseur des 15 derniers jours.
Parce que tu le fais une fois par mois.
Parce que je le fais une fois par mois, je me dis, ah ouais, effectivement, je sais quand même, j'ai conscience que le plus de kilos, il n'est le reflet que, entre guillemets, de mes craquages nocturnes, d'avoir plus mangé dehors, d'avoir pris moins le temps de dormir. Et là, je me dis, ah, ok, on va essayer de rétablir ces mauvaises...
Attends, décris le kiff, là. Tu décris le kiff.
Mais est-ce que c'est une mauvaise idée de se peser tous les jours?
Non, tous les jours, non, on s'entraîne. C'est pour les sportifs de haut niveau.
Je connais des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire qui, du coup, se pèsent deux fois par jour.
Imaginons, le week-end, vous kiffez. Vous faites un repas de ouf avec des amis, ce qui arrive, et vous pesez le lundi matin parce que vous culpabilisez. Deux situations. La première, vous avez pris du poids. Vous dites c'est la catastrophe. Ça vous met un coup de stress et vous allez culpabiliser du bon moment que vous avez passé. Deuxième situation, vous n'avez pas pris de poids. Vous dites c'est génial. J'ai
et
pas
tu recommences.
Et du coup, tu recommences. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt de se peser trop régulièrement. Je pense qu'une fois par mois ou tous les deux mois, à chacun de fixer finalement le curseur, c'est largement suffisant. Mais tous les jours, c'est une angoisse. Imagine, tu commences ta journée par « je regarde le téléphone, les mauvaises nouvelles, je suis dans le speed et puis en plus je me pèse ». Je pense qu'à mon avis, c'est pas ce que je conseille.
Ça fout le cafard, hein, des fois. Et là, je suis arrivé à me peser. C'est au médecin, dans une consultation. Donc moi, j'ai toujours ma balance, je check et mes aliments et mon corps. De temps en temps, je stagne à 94. Je me dis, ah, bah, c'est bien, je mange comme un ouf et je prends pas de poids. Et ça, tu sais, le métabolisme, il devait être... J'ai arrêté un peu le sport à ce moment-là.
Ah, t'as arrêté un peu le sport aussi.
Et du coup, je suis parti me peser. Il m'a dit, ouais, 101 kilos. Et je dis, ah ouais, là, non, j'ai pas vu la montée de 6, là.
Ah ouais.
Ça fait un effet
rebond,
retardataire et rebond. Le rebond glucidique, il a été fulgurant.
J'ai une question. Moi, je fais de l'éveil, de l'explosivité, de l'endurance, du cardio, enfin plein de choses différentes, de la levée de poids, de plein de choses. Je fais entre 80 et 82 kilos, à peu près, parce que justement, le poids veut rien dire, donc je fais entre 80 et 82 kilos. J'ai une diète, des fois, on va dire 2 sur 3, je suis strict. 2 sur 3. Je perds pas de poids.
Peut-être que tu manges pas assez.
Pourtant, je me gave. Vraiment, je mange des gros pancakes.
Mais peut-être pas les bons aliments. En fait, pour perdre du poids, souvent, on pense que c'est que...
Non, mais est-ce que c'est important Est-ce que je peux être en meilleure santé et toujours rester avec le même poids?
Ah oui, ça se trouve... Alors après, il faut bien comprendre qu'on a une sorte de thermostat. C'est-à-dire qu'on a un poids qui est plus ou moins déterminé. Et ça va être difficile d'aller à l'encontre de ce poids.
D'accord, il y a quand même quelque chose qui est prédéterminé.
Exactement.
D'accord.
Ça ne veut pas dire que tu ne pourras rien faire. Ça veut dire quand même qu'on hérite notamment de nos parents, déjà des habitudes alimentaires, un patrimoine génétique. Et puis, il y a ce fameux microbiote qui finalement reste un peu toujours équivalent durant toute la vie. Ça veut dire que le poids que tu as est peut-être déjà un peu prédéterminé. Et tu pourras faire des ajustements, soit au prix de lourds sacrifices, et toi, tu vois, tu le dis,
c'est violent. Ouais.
Donc, tu peux y arriver, mais peut-être que c'est ton poids tel qu'il est prévu. Maintenant, il faut se dire, est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je me sens en bonne santé? Est-ce que je dors bien? Si à 80 kilos, ta vie, elle est cool, que t'es content, que t'arrives à faire du sport, que tu joues...
J'ai pas de ventre, par exemple. J'ai pas de ventre.
T'as pas de bide. Bah, en fait,
c'est le principal, je crois.
C'est pas, voilà. Faut pas se fixer que le poids. Le poids sur la balance, c'est qu'un chiffre.
On peut avoir le même poids et améliorer sa santé.
Exactement.
Ah, d'accord. Donc ça, c'est
un mal. Mais parce qu'une histoire de poids.
On nous a vendu vraiment le poids pendant les balances connectées, les trucs pendant des années et des années.
La balance, ça te donne le reflet de ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Tu prends ta taille, tu prends ton poids, t'as un chiffre et ça te donne une fourchette. Mais entre cette gecko qui va faire 100 kilos mais avec du muscle et une personne qui va être obèse parce qu'elle a du gras, bah, c'est pas tout à fait la même chose.
Mmh. Donc, tu peux avoir l'air plus mince déjà bah, avec le muscle parce que la graisse pèse plus lourd que le muscle.
Exactement.
C'est donc rien que ça. C'est dur à assimiler.
Attends, redis.
Le muscle pèse plus lourd que le gras. Et donc, quand t'es musclé, tu peux faire 100 kilos de muscle, tu vas avoir plus vite que 100 kilos de gras.
Exact. Bien. J'ai inversé. T'as déjà inversé les pinceaux.
Ça arrive.
Mais attends, parce que c'était contre-intuitif. Tu lui disais. Peut-être que tu manges pas assez. Ouais. Ça, c'est intéressant, parce que toi, tu as l'air de maîtriser le truc, mais je pense que les gens maîtrisent pas.
Alors manger là, plus ou manger plus de fois dans la journée.
Quand il te répond, tu manges pas assez.
Il y a peut-être deux choses.
Tu viens de dire, je perds pas de poids. Pourquoi? Il a dit peut-être que tu manges pas assez.
C'est très facteurs. Intéressant.
Il y a deux facteurs. Le premier, peut-être que tu manges trop souvent en quantité durant la journée. Notre vie est dictée par l'alimentation. Je me réveille le matin, qu'est-ce que je prends de petit déjeuner? Entre le petit déjeuner et le déjeuner, parfois on va avoir faim, on va grignoter un petit truc rapidos en deux secondes. Et puis on va déjeuner. Et puis après, qu'est-ce que je vais goûter? Et puis qu'est-ce que je vais dîner? Et puis parfois le soir, avant de dormir, je vais manger un petit truc parce que je suis un peu stressé, je suis fatigué. Donc en réalité, on n'a jamais laissé notre organisme au repos. Ça veut dire quoi? Que le fait de pratiquer du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une période de la journée durant laquelle tu ne manges pas et une période durant laquelle tu manges. Et bien ça permet de favoriser la perte de poids à calories équivalentes. Donc déjà, peut-être que tu manges trop souvent, tu as trop de pics de sucre, trop de pics d'insuline et tu stockes beaucoup plus rapidement. Deuxième élément, on pense que pour perdre du poids, il faut simplement...
Petite parenthèse, et on reprend juste après parce que c'est très intéressant, mais le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je mange pendant une certaine période, c'est
exactement.
Ça d'accord, déjà, faut laisser genre le matin, on ne mange pas jusqu'à midi, c'est ça
Alors, déjà le soir, quand tu te couches et que tu prends ton dîner, tu te réveilles le matin, tu as fait du jeûne intermittent parce que tu n'as pas mangé durant la nuit. Plus tu vas prolonger.
Mais j'ai une séance de sport à 9h. Je peux pas ne pas manger. Je vais me soulever des trucs. Ça va être.
Training à jeun. Ça fonctionne.
Mais soulever des trucs à jeun, je vais tomber.
Bah, c'est une croyance.
Ouais, c'est une croyance.
Le petit déjeuner, c'est un lobby des céréaliers. C'est un lobby en fait de l'industrie agroalimentaire qui nous a mis dans la tête que le matin, il fallait manger des trucs
bon
plutôt.
Un bon petit déjeuner.
Mais en fait.
Mais je parle d'avoine. Je parle de yaourt, d'avoine. Je parle de ça. Je parle de skyr. Je parle de trucs comme ça.
Si tu manges des trucs riches en protéines et riches en fibres, c'est validé, c'est ok, c'est très bien. Et avant une séance de sport, c'est très bien. Donc tu fais bien de prendre des protéines avant le sport. Mais peut-être que tu n'en as pas forcément besoin.
D'accord.
Donc ça dépend des gens.
Tu peux attendre parce que juste après ton training, tu vas reprendre quelque chose, tu vas te recharger en protéines.
Mais quelle est la durée du jeûne?
Alors, ce qui est le plus étudié, c'est le 16-8. C'est-à-dire que tu ne manges pas pendant 16 heures et tu manges pendant 8 heures. Concrètement, ton premier repas, tu le prends à midi. Ton dernier repas, tu le prends à 20 heures.
C'est marrant,
c'est super.
Je fais un peu sans faire exprès.
Ah bah tu vois, et c'était
je dîne, après je fais ma life, et comme je me couche tard,
méga
je me réveille tard, je petit déjeune pas.
Tellement bonne, mon pote.
Et ben voilà, et ben c'est peut-être une des raisons pour lesquelles...
Peut-être pas 16, mais pas loin, peut-être 13, 14 heures.
Tu fais du jeûne intermittent, et ça participe peut-être aussi au fait que ton poids est stable.
Mais parce qu'en fait, je vais déglinguer un cheeseburger à 22 heures, je me couche à 4 heures du mat, je me réveille à midi.
Ah ouais, et pourtant c'est pas bien de manger tard le soir. Un repas équivalent.
C'est pas tard du coup. Moi je suis décalé.
Il y a beaucoup d'informations. Je pense qu'il faut.
C'est marrant.
Mais en même temps c'est complexe.
Le fait d'être décalé et de pas petit déjeuner, donc mon prochain repas il est à 14h.
Donc tu fais du jeûne intermittent.
Bah ouais, je fais du 22h, 14h.
Ouais, donc en fait ça participe aussi à perdre.
Sans faire
du
exprès,
poids.
Parce que je petit déjeune pas.
Moi c'est ce qui m'a permis de perdre du poids. J'ai perdu 12 ou 13 kilos avec du jeûne intermittent. Et je mange. Je suis pas en train de me frustrer. Je suis pas en train de pas aller manger des pizzas, des kebabs, des hamburgers. Je mange. Après, je fais attention à ce que je mange, mais le jeûne intermittent, c'est une des clés pour non seulement peut-être perdre du poids, mais aussi rester en bonne santé. On a montré que ça permettait d'améliorer ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que ton insuline qui est produite par ton pancréas, elle va mieux marcher grâce au jeûne
mais
intermittent.
Mais pas de Coca-Zéro pendant le jeûne intermittent.
Ah non. Alors, théoriquement, tu pourrais, parce qu'en fait, le Coca-Zéro n'a pas de sucre.
D'accord.
Sauf
c'est pas de sucre,
vrai,
alors.
Il faut pas de sucre. Sauf qu'en vrai, je préfère que tu prennes une un thé le matin, riche en théine, riche en caféine. Le thé, le café.
Il le prend pour le goût, le Coca. Il le prend pas pour le goût. C'est bien fait, s'il n'y en a pas.
Il faut changer. Tu peux te faire un kiff avec peut-être une autre boisson.
Mais le café, je peux prendre mon jeûne intermittent.
Café,
oui, je peux.
Café,
okay. Ouais, mais ça n'a pas le même goût, le café.
Pas le même goût, d'accord.
Tu sais, ce que tu recherches, c'est un plaisir. Si tu te prives sur plein de trucs, au moins, on peut te laisser un petit.
Alors voilà, après, encore une fois, tu vois, si tu
prends. Après, le gazeux, c'est pas bon. Ça fait du gaz carbonique dans le ventre, ça fait un peu des ballonnements.
Ça dépend des gens, mais si toi, tu me dis, je suis bien avec mon poids, je suis en bonne santé, je dors bien, je suis cool.
Je suis méga bien.
C'est quoi, une bouteille d'un litre 5 que tu bois par jour?
Non, pas par jour, non, mais non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que la famille est intox, quoi. Enfin, moi et ma femme, on est complètement blablabla, il y en a plus, blablabla, faut racheter, blablabla.
Tu te rends compte, quoi, c'est l'addiction, quoi.
Bien sûr, c'est une addiction, mais je te dis, j'en ai pas beaucoup dans la vie, donc je me dis...
c'est vrai. Laisse-moi kiffer avec ce truc.
J'ai que ça, quoi.
Passe à la Volvic citron, tu sais, avec légèrement avec le zeste, là.
Il y a du sucre là-dedans, non?
Alors, certaines, il y a un peu de sucre.
Pas la citronade.
Pas la citronade.
C'est la citronade, elle est pas bonne. La Volvic citron, elle est très légère.
Ces propos n'engagent que cette gecko, attention.
Mais le goût, tu le sens au goût, le sucre.
Je sais pas, ils sont tellement forts dans l'industrie agroalimentaire.
Ils cacheraient le goût pour t'envoyer du sucre.
C'est clair.
Dans quel but?
Ils mettent du sucre dans le yaourt 0%. Donc, à ce moment-là.
Parce qu'il y a l'écrit 0% de matière grasse et toi, tu crois que c'est 0% de sucre. C'est là l'arnaque. Le 0% de quoi? C'est 0%.
Et dans un yaourt, c'est du lait. Le lait, c'est du lactose. Le lactose, c'est du sucre. Donc, il y a forcément du sucre.
Je peux dire deux choses.
Bien sûr.
Vers, je sais plus exactement quelle année, on va dire, on est à peu près dans les années 2010. Je suis en train d'écouter On te nique ta mère avec le Viagra de ton grand-père. Et là, je viens de me taper sur l'épaule et dire, tu sais que tu vas te retrouver dans une émission à parler de nutrition avec cette gecko.
C'est où ça? C'est dommage.
Ça vient de me faire rêver. Ouais, je viens de me dire, je l'avais pas vu venir.
J'ai dû en faire aussi.
On en a quelques-unes. On recommencera ensemble.
Mais je me vois écouter du cette gecko et dit, tu vas parler de nutrition avec ce gars. Voilà, je suis déjà dans ma tête, c'est pas mal.
L'émission est assez improbable, j'avoue. Moi, génial.
Et deuxième chose, pourquoi tu lui as dit peut-être que tu manges pas assez?
Ah oui, parce que souvent on pense que pour perdre du poids, il faut s'affamer. Alors toi, tu t'as dit que tu mangeais bien, mais on peut donner ce conseil pour tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Finalement, la restriction que calorique, elle est contre-productive. Parce qu'en fait, notre métabolisme s'adapte à ce qu'on mange. Si vous mangez rien, le métabolisme, il tourne au ralenti. Et donc, il se met en mode économie d'énergie. Parce qu'on est en train de le stresser, on mange pas beaucoup. Et donc, le peu de calories qu'on va ingurgiter, ça va être stocké immédiatement au cas où tu voudrais faire souffrir encore plus ton corps.
Ton corps se dit, c'est potentiellement la famine, là. Il faut qu'on stocke à fond.
C'est notamment
parce qu'on n'a pas assez à manger.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le gène de la famine, c'est-à-dire des mamans enceintes durant la Seconde Guerre mondiale qui ont vécu les déportations, eh bien, quand on regarde leurs enfants, ils ont eux aussi hérité de ces gènes qui font que, bah oui, on va stocker. Donc, en fait, on a il y a une réelle influence de notre alimentation sur notre métabolisme. Donc, il faut souvent manger plus pour perdre du poids, mais manger mieux. Ça veut dire miser sur des aliments riches en protéines et riches en fibres. Ces fibres qu'on va trouver dans les lentilles, les haricots, permettent de perdre du poids.
Il y a de la fibre aussi dans l'avoine, du coup.
Exactement, il y a aussi des fibres.
C'est ça qu'on peut se dire qu'il y a un petit comptable, on a un petit comptable dans le ventre, qui, si t'es à 0 euro et que tu commences à être à découvert, il va stocker tout de suite la maille.
Exactement.
Alors que finalement, si t'as un peu plus d'argent, il va dépenser plus facilement.
Si tu manges toute la journée,
J'adore la métaphore.
Le métabolisme, il est tout le temps activé. Et le métabolisme, ça fait que génère la perte de poids, en fait.
Et tu peux regarder les sportifs de haut niveau ou les sportifs.
Ils me montrent.
Non, mais tu fais plaisir.
Non, mais t'as un sac à corps quand même. En plus, t'as mis le col roulé. Désolé.
Ça se voit plus.
Bah, c'est le col roulé, il y a un côté, j'ai envie de te mettre un petit gun et tout. Genre, un petit délire, quoi.
Ils mangent beaucoup, les sportifs.
Un holster, en cuir, marron.
Ça, marron, bah oui, à la Starsky, j'ai le gilet. Ah ouais, frère, j'ai la ref, t'inquiète pas. Jusque dans le sauna.
Exactement, avec son gilet.
Voilà.
Juste une question. J'ai perdu ma question.
Tu sais que je t'en veux parce que tu te souviens pas de moi.
Quoi?
Une anecdote gênante. À l'école ensemble.
Non.
On s'est déjà rencontré?
On s'est déjà rencontré.
Vous êtes frère?
Bah ouais. Et je suis déjà venu chez toi.
Mais oui.
Oui.
Mais
oui.
Je suis pas fou alors. Je suis pas fou.
Non.
Je te l'ai dit tout à l'heure. Je
me suis dit peut-être que t'es venu.
Parce qu'il m'a dit, j'ai choisi ce médecin. Je suis pas. Alors là, mon pote, vous êtes tous mes potos.
Ils sont tous venus chez Watt. Ils connaissent tous les SOS.
C'est marrant. On a un débat il y a trois jours parce qu'on est en train d'écrire un truc. Et il y a une scène avec un médecin.
D'accord.
Et lui, il le met chez le personnage. Moi, je dis, bah non, il faut que ce soit chez le médecin. Il dit, bah non, le mec, il parle avec un médecin normal chez lui. Parce que lui, il est hypochondriaque.
Ah bah...
J'étais là, mais attends, mais mec, non, je suis pas d'accord. Il y a personne fait venir le médecin chez lui. Tu sais, ce que le gars, il est posé, c'est pas, il a mal au ventre, il va mourir. Et en fait, lui, il dit, bah le médecin, il est toujours chez moi, je vais pas chez le médecin.
C'est
le
docteur, j'ai mal aux cheveux.
Donc, toi, t'appelles tout le monde.
Exactement.
Bah,
c'est
vraiment
que
j'ai mal aux cheveux.
Ça, en plus, moi, j'ai toujours c'était la nuit.
Ouais, c'était la nuit, exactement.
C'était la nuit. Donc, c'est SOS médecin la nuit. Donc, c'est forcément j'avais mal au dos.
Urgence. Exactement.
Tu m'as injecté.
Mais ouais,
mais grave. C'est lui, docteur Géoui.
J'ai quoi dans le dos?
C'est toi, docteur Géoui?
Docteur Géoui, le Valium.
Eh ben, pourquoi Géoui?
Alors, je t'explique l'histoire.
Ils t'ont donné un surnom.
Non, je t'explique. Tu m'as injecté du Valium dans le cul.
Ouais.
Voilà, je me rappelle très, très bien. Eh ben, figure-toi, avec ma meuf qui était en train de pleurer parce que j'étais sur le bord de la... Alors, je t'explique ce qui s'est passé.
Le docteur Valium.
Je t'explique. J'ai une lombalgie. C'est marrant quand même, là
c'est fou, ça se voit pas, l'anecdote,
tu te rappelais.
Tu la connais en plus.
Tu me connaissais en fait, c'est ça.
Je connaissais de l'époque. À l'époque, je faisais entre guillemets que de la médecine, ce qui était déjà très...
J'ai une lombalgie. Mais la lombalgie, c'est une douleur terrible, c'est que tu restes plié comme ça, tu peux plus bouger, et dès que tu lèves, et le moindre mouvement, tu dors. Et en fait, j'ai honte de la raconter, mais elle est drôle.
Bah, en même temps, tu voulais la raconter
mais
sur scène.
Je l'ai racontée, en plus, je l'ai racontée sur scène, donc
mais
ça ne me dérange pas.
Mais pourquoi une piqûre de Valium, c'est pour qu'il dorme.
Non, c'est pour ça que moi, je suis en train de péter un plomb. C'est un truc qui m'a raconté, qu'on a écrit pour qu'il le fasse sur scène, qu'il m'a expliqué toute l'histoire.
Je l'ai raconté sur scène. Je l'ai raconté sur scène.
Et en fait, c'est toi. C'est fou.
En fait, je t'explique. J'ai un peu mal au dos. Je suis quelqu'un, j'ai un tempérament anxieux. Et quand j'ai des angoisses qui commencent à arriver, ça se tape dans le dos et mon dos se bloque.
Parce que t'en as plein le dos.
Parce que j'en ai plein le dos et surtout parce que j'ai fait beaucoup de skate par exemple et j'ai peu étiré mon muscle et tous les muscles du dos sont en bas du dos sont très très musclés mais très peu mobiles. Du coup, il faut faire beaucoup d'étirements. Il faut toujours s'échauffer, faire beaucoup d'étirements avant de faire des sports.
Les lombaires, j'ai les lombaires
très solides. Ouais.
Ouais, c'est pas bon, tu vois.
Il faut bien étirer les lombaires, c'est hyper important. Même quand vous êtes en bonne santé, étirez vos lombaires. Parce que déjà, on n'est pas censé, en tant qu'humain, ça je l'ai appris, d'être redressé. On était à la base, on était à quatre pattes. On s'est redressé et on n'est pas assez solide techniquement pour se proporter toute la vie. Donc, il faut faire du renforcement musculaire pour les lombalgies. Ça, c'est l'instant médical. Validé par le docteur.
Il faut faire des renforcements musculaires pour les genoux aussi. Chaîne lombaire. Plus on approche l'obésité, plus
les genoux prennent cher.
Les genoux prennent cher. Ouais.
Mais chaîne lombaire, on est d'accord qu'il faut la renforcer.
Exactement.
OK. J'ai du stress, je me bloque le dos, j'ai un pote, j'ai un ostéo, c'est un génie, va le voir et tout. Je vais voir l'ostéo, elle me manipule et là, elle me claque. Je fais, j'ai un peu mal, elle fait, vous buvez. Okay, je bois de l'eau, je sens que ça passe pas. Je commence à prendre du paracétamol, ça passe pas et j'ai rien d'autre dans ma besace, quoi. Et donc, je reste au lit, ma meuf est là, ma meuf de l'époque, elle est là et je suis au lit pendant 4 heures, 5 heures, je bouge pas parce que dès que je bouge, ça me fait un peu mal. Et je sens que ça devient de plus en plus aigu. Et je me dis, j'ai besoin d'un shoot d'endorphine, donc je me branle, en fait.
Ah ouais, bah, ça t'a excité.
Mais même pas, ça m'a pas excité. Mais
de dormir,
mais
en plus, ça c'est comme de la théine, normalement.
Tu t'es déjà branlé avec un mal de dos, c'est... Aïe, c'est hyper relou. Je suis désolé, Jimmy, je te raconte toute l'histoire maintenant. On va jusqu'au bout, on est ensemble. Mais attends, c'est ça qui est fou. Mais je suis alité, je peux plus bouger.
Mais attends, tu m'as serré la main, en plus.
Alors attends, j'ai ma très propre. Oui, en fait, ce qui s'est passé.
Déco, l'envers du décor.
Je suis même pas sûr que je t'ai serré la main, je vais t'expliquer pourquoi.
Donc, t'as essayé une espèce de soin un peu naturel de dire,
oui, voilà, je vais m'envoyer les endorphines. Oui, voilà, de dire, moi, ça va m'envoyer les endorphines. Et franchement, c'est pas con. Je suis désolé, c'est pas con. Et effectivement, ça soulage un peu le bassin, ça fait du bien pendant 3 minutes. Mais c'est 3 minutes qui sont meilleures que la moyenne. Et je suis là, et alors c'est pas corrélé, ça c'est un truc qui est vrai, c'est que, bon, bah, l'éjaculation et l'orgasme ne sont pas corrélés chez l'homme, mais généralement, ils arrivent ensemble. C'est une question d'éducation.
Tout sur toi.
Tout sur
et
moi.
Et t'as tout gardé quand Jimmy.
Mais j'avais. Donc je remets mon t-shirt et je nettoie avec mon t-shirt. Mais pour moi, l'histoire s'arrête là. À 2h du matin, j'ai une crise aiguë de ouf. Je transpire, je rêve, je fais des cauchemars. Et je rêve que. Enfin, dès que je me réveille, je vais tomber par terre. Donc je glisse par terre. Et à un moment donné, je me retrouve par terre et je dis, je vais tomber dans les vapes tellement j'ai une suée, tellement j'ai mal en fait. Et ma copine appelle SOS médecin, elle est là, elle est en panique, elle me voit par terre comme ça, j'ai la tête dehors et je bouge plus parce que là j'ai plus mal.
La tête dehors ?
J'ai la tête parce que j'ai une terrasse, donc j'ai la tête dehors dans la terrasse pour prendre l'air, respirer en fait.
Ah, t'es à quatre pattes chez toi, allongé. La tête au balcon.
La tête au balcon, je suis comme ça, je peux plus bouger.
Incroyable. C'est beau.
Jimmy Mohamed arrive.
avec sa cape.
Il me voit de dos. Et donc, il me voit de dos. Il dit, oui, je vois très bien ce que c'est.
Il a sorti la piqûre directe, là.
Il a vu la crise. Il a vu la crise lombaire et il m'injecte,
ah ouais,
du Valium.
Direct, hein. Ah ouais.
Bah, quand tu vois les patients qui sont au fond du trou.
Je peux pas.
Ah ouais, là, tout de suite, tu soignes. Tu...
Et le Valium, ça marche très bien.
Et le Valium, et c'est quoi, en 3 minutes?
Tu dormais.
Il y a une petite technique. Je peux me permettre. Ça fait Valium et après, il fait. Hop là, voilà. Il faut que ça rentre, faut que ça pénètre un peu sur la fesse.
Parce que le Valium est très épais, en fait.
Ah, d'accord.
Du coup, tu sens vraiment le produit dans la fesse. C'est et ça. Donc, c'est un peu
avant
plus
qu'il se diffuse.
Exactement.
Ouais, putain, c'est toi. C'est le puzzle. Et à un moment donné, je me retourne pour le remercier, mais moi, je sais que j'ai Wish sur moi.
Au sol. Je suis collé à la moquette, l'enfoiré. Ça fait scratch.
Je suis un peu comme ça, genre, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment gentil. Et par contre, j'ai passé la meilleure night de ma life. C'est-à-dire vraiment.
Et après, depuis, il prend du Valium.
Ah. La couverture
regarde,
était là, comme ça.
C'est intéressant parce que dans l'histoire que toi, tu m'as raconté, ouais, t'étais persuadé que le docteur t'avait grillé.
Ouais, mais j'ai.
Et en fait,
peur.
T'avais pas grillé. Tu t'es pas.
Non,
parce que lui m'a dit, je sais, j'ai vu dans ses yeux, il a vu mon t-shirt, il a fait.
Ah non.
Ah le bâtard.
Oh, ah oui, non, c'est pas ça. C'est la chute qu'on avait trouvée, c'était, on avait trouvé une chute, on avait dit, je suis sûr qu'il est rentré chez lui, il a appelé sa femme, il a dit, chérie, j'en ai vu des trucs, mais j'ai jamais vu un mec jouir de douleur.
Ah ouais,
non, franchement, j'ai pas du tout.
Bah, tu vois, donc voilà. Bah,
d'où l'importance d'avoir toujours des sous-vêtements propres, parce qu'on sait jamais.
Toujours, en cas de lombalgie, hyper important.
Si t'as un accident de la route,
les pompiers viennent te récupérer. Et souvent, tu te retrouves
généralement, c'est triste. Moi, j'ai une maman très dépressive qui a fait beaucoup de tentatives de suicide et tout. Elle mettait toujours des belles tenues. Au cas où les pompiers venaient les ramasser, ça faisait partie de son rituel. Donc on voyait qu'elle avait mis une certaine nuisette et qu'elle écoutait du Mike Brandt à fond. On rentrait chez nous, on savait qu'elle avait fait une grosse bêtise. Mais c'est pour ça que j'ai su qu'elle disait « Non, mais on ne sait jamais si les pompiers m'auraient ramassé, je voulais être belle dans... »
Kiani, c'est pas pris la tête là.
Waouh, bah là, je ne pouvais pas bouger. Vraiment, je ne pouvais vraiment pas bouger. Donc c'est un peu...
Tu ne pouvais pas changer de puzzle, quoi. C'était le t-shirt là en l'occurrence.
Bah là, tu
sais, ça va, t'as l'énergie pour te branler, t'as l'énergie pour changer de t-shirt.
Non, mais je pouvais pas. En fait, c'est pas ça, vous ne rendez pas compte que tu ne peux pas bouger à ce moment-là. Le moindre mouvement.
Fallait prendre une chaussette,
c'est
gros.
La chaussette. Allons, Jens.
Tout dans la chaussette, frérot.
Mais du coup, on s'est déjà rencontré.
Alors, on s'est déjà rencontré il y a quelques années.
Alors, comme.
Tu t'es dit, c'est Ken qu'aujourd'hui,
j'ai vu direct. Ah bah oui, direct.
Ça, c'est relou quand t'es connu et que t'appelles un médecin et tout.
Parce qu'il a et tout.
Mais bon, après, je me suis dit, bon, c'est les artistes, ils sont un peu fragiles. Bon, voilà. Mais là, il est vraiment mal.
Ils sont tous drogués, je lui mets du Valium, il va être content.
Le Valium, ça marche très bien quand on a vraiment très, très, très mal au dos. En fait, c'est un décontractant musculaire très puissant.
D'accord.
Et avant, il y avait des décontractants musculaires qui ont été retirés du marché, qui marchent plutôt bien finalement. Mais les décontractants qui existent à la pharmacie sont pas très efficaces. Et celui qui vraiment, quand on a les patients qui sont au fond du trou très, très, très mal, de façon ponctuelle, on fait un peu de Valium. Et puis ça permet de relâcher les muscles, ça permet de trouver le sommeil, et donc on remet un peu les compteurs à zéro.
Ouais,
c'est pas tout le temps, mais
aidé,
franchement,
parce que la lombalgie c'est musculaire, c'est pas dans l'articulation, d'accord.
Et donc tu dors plus, tu dors, t'es comme ça, j'avais des transpirations de douleur. En tout cas, merci parce que tu m'as vraiment sauvé la nuit, la vie, même le jour, j'ai bien dormi quoi. Après, c'est marrant, c'est que maintenant, plus on avance dans cette émission, plus les extraits sont repris dans la presse, donc voilà. Oui, je me branle. Voilà, désolé.
Mais attends, tu l'as dit vraiment depuis, bref.
Ouais.
Ça fait 15 ans que les gens savent
Beast to Flex. Ouais, c'est vrai, Beast to Flex.
T'es écrit ici, c'est pas pour rien.
Alors ça, c'est notre rencontre avec Jimmy, mais alors votre rencontre, comment ça s'est passé? Comment on en arrive à un plateau dans un bon moment avec Seth Gex et Jimmy Mo?
Bah, je sais pas, on se reniflait le cul sur les réseaux sociaux, si je peux me permettre. On s'est envoyé un message ou deux, j'ai dû te féliciter pour quelque chose ou quoi.
Et ça s'est fait naturellement, on a répondu. Ouais. Et puis en plus, moi, bah, comme toi, Kian, j'écoutais Segeko. Bah voilà, c'est la culture rap. Donc moi,
Gollery.
Non, mais toi,
je pense que t'as cerné le truc.
C'est du second degré pur. C'est du divertissement.
Tout à fait. Oh merde. De l'entertainment, ouais.
Ah bah oui, c'est clair.
Et du coup, on se branche pour faire une vidéo ensemble. La seule et unique qu'il fera avec un rappeur. D'ailleurs, je suis fier de ça.
C'est vraiment plaisant.
Et non pas parce que ça s'est mal passé. C'était très cool.
Non, j'ai eu
Je suis le seul rappeur qui intéresse Jimmy Mohamed, ça tue, mec. T'imagines le goal de ouf. Et on se parle. Il dit, ah bah moi, je suis au Maroc. Hein. Moi aussi, je suis au Maroc et tout. Bah, quand on rentre, on se voit tel jour. Et on était juste l'un à côté de l'autre, à un mètre, en train de s'envoyer des messages.
On était dans le même bus, avion. En sortant de l'aéroport.
Ah oui,
à Casablanca. Et en fait, on est en train de s'échanger des messages. Mais il était à 5 mètres de moi, à 2000 kilomètres de là où on habite, quoi.
Donc on n'avait même pas fait la corrélation que toi t'étais là, moi j'étais là, parce que j'étais à Marrakech, du coup j'ai changé d'aéroport à la dernière minute, on se retrouve ensemble. Je trouvais ça.
Je pense qu'il y en a un des deux qui a stalké l'autre. Et qui l'a suivi. Et maintenant il raconte l'anecdote, c'est soit toi qui l'as suivi.
Ses enfants, sa petite femme et tout, je pense pas qu'il a fait un truc, c'est moi.
C'est toi. Ça, c'est ouf, je suis exactement dans le même bus.
J'adore la rupture, c'est moi.
Je suis à la chambre d'hôtel juste à côté.
Quelle coïncidence.
Oh putain. Après voilà, il y a des feelings qui passent. Quand tu bosses avec les gens qui t'apprécient, que toi tu apprécies aussi, ça peut que bien se passer.
J'avoue.
C'est que des bons moments.
Ah ouais. Voilà. Oh, incroyable. J'ai une question. C'est
je l'ai rarement vu. Là, c'est un enfant. Mais il est vraiment hypochondriaque. Je pense que c'est l'homme le plus heureux que l'invité soit un médecin. Mais vraiment, il est comme un ouf là. Il dit des noms de médicaments. Mais trop, ça, il est heureux. Il a. Oh, je vais pouvoir tout lui demander. T'es le Père Noël.
Non, j'ai une question. Dans une société, on n'arrête pas de dire le bonheur, aller bien et tout. Et c'est une question qui est pour vous deux. Qu'est-ce que ça veut dire aller bien?
Moi, je pense qu'il y a deux définitions. La première, c'est qu'on sait qu'on va bien seulement quand on tombe malade. Et on se rend compte à quel point de la chance qu'on avait quand on était en bonne santé. Et souvent, on oublie de profiter du moment, du bon moment qu'on peut passer ensemble, parce que tout va bien. Et on a conscience du bonheur une fois qu'on perd la bonne santé. Et quand on a mal à la jambe, on se fait une entorse. Oh là, qu'est-ce que c'est bon de marcher sur ses deux jambes. Quand on a très mal à la gorge, oh là, voilà. Et on peut décliner ça pour tout l'organisme. Et puis la deuxième chose, c'est le fait d'être entouré de ceux qu'on aime. Alors, il y a des études qui ont essayé de comprendre à quoi était corrélé le bonheur. Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est le fait d'avoir plein de femmes? Est-ce que c'est le fait d'avoir des belles voitures? Eh bien, ils se sont rendus compte que le fait d'être heureux était associé au fait d'avoir des gens proches de nous. Et moi, je m'en rends compte parce que je travaille à SS Médecins. Et tous les gens un peu âgés que je vois, ils sont seuls. Et tu vois, j'ai des petits vieux qui me disent... Bah, ça fait 2 ans, 3 ans, je suis pas sorti de chez moi. J'aimerais juste voir. Et ça, c'est dans la même. Elle m'a fait de la peine en disant, j'aimerais juste sentir le vent sur mon visage dehors.
Ah oui, donc elle n'est pas sortie.
Tu te rends compte, et pourtant, elle a rien de gravissime. Juste, elle habite dans un endroit où il y a pas d'ascenseur. Elle a du mal à descendre et elle a personne. Donc, je pense
à
que
la personne qui vient la voir ou à la personne dans sa.
Elle avait quelqu'un. Ses enfants sont loin et du coup, elle est seule. Donc, je pense que le bonheur, il se résume à ça être en bonne santé, profiter du fait qu'on va bien, et puis d'être entouré de ceux qu'on aime, tout simplement.
On va faire le métier que t'aimes. Hein. C'est réussir de faire sa passion à un métier. Être avec les gens que t'aimes, manger ce que t'aimes et de bien te reposer. C'est là aussi, c'est un moment de bien-être où tu peux dire, ah, je me sens bien là. Tu vois. Donc, quand t'es détendu. Donc, pas de stress, pas de situation de stress. Et des fois, ça se retrouve quand tu te reposes, t'as travaillé, tu rentres du travail, tu te poses dans ton canapé. Et ça peut être aussi une définition du bonheur, ça.
Et aussi un truc, quand on parle de richesse, alors c'est vrai que c'est hypocrite de dire oh, l'argent en Paris ne fait pas le bonheur. Bon,
il contribue.
Et moi, j'ai pris conscience
beaucoup
que...
Beaucoup de gens le disent, ouais. Beaucoup de gens qui ont de l'argent reviennent là-dessus et disent attention, attention, ça, c'est pas vrai.
Moi, Donc, je place la richesse. Alors, je viens d'un milieu très modeste et voilà, mes parents, ils ont fait... J'avais rien de manqué en mangeant, mais j'ai le souvenir parfois, quand on faisait les courses, qu'il fallait retirer des trucs sur le caddie ou que ça passait pas. Il fallait retirer un ou deux produits. Et ma mère disait, est-ce que ça passe? Bah non, ça passe pas. Et j'ai compris que j'étais riche le jour où je pouvais faire mes courses.
Sans compter.
Sans compter. Et je pense que rien que là, déjà, on se dit, ah ouais, j'ai de la chance. Je peux juste au moins remplir mon caddie et pas trop me poser la question de la richesse. Donc tout dépend d'où on place le curseur de la richesse. Est-ce que c'est d'avoir des voitures et tout le tralala? Moi, je pense pas. Je pense qu'on est riche à partir du moment où on fait à manger, où on fait les courses sans avoir à réfléchir à ce qu'on a acheté. Et je pense que déjà rien que
vivre,
ça.
Vivre, c'est manger. C'est ouf. Hein,
ouais, vivre, c'est manger.
Ça se résume à ça.
Et que finalement, il faut être heureux de déjà rien que d'avoir ça. Je pense qu'on est plus riche que, je sais pas, 90% de la planète.
Et je regardais un gars qui parlait de Bettencourt, la fameuse. Et multimilliardaire qui est mort maintenant,
mais,
voilà, qui était la femme la plus riche du monde, elle avait 30 milliards à l'époque, je crois. Et la manière dont il l'a dit, alors je ne sais plus qui en parle, c'est dans un docu, la manière dont il l'a dit, je trouvais ça intéressant parce que souvent, tu sais, on patine un peu. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ouais. Mais... Et en fait, il disait, il y a des endroits, il y a des secteurs de ta vie où l'argent ne peut rien. Et en fait, quand tu regardais Bettencourt, c'est hyper intéressant parce que techniquement, elle a 30 milliards et c'est le moment où ils expliquent que vraiment, ça là, il fallait pas ouf. C'est une meuf chez elle, son mari ne la calcule pas.
Il y a le savoir-vivre.
Ouais. Et je trouvais que la façon de le dire était intéressante, de dire, il y a des... J'ai plus exactement la phrase, mais c'était quelque chose comme, il y a des secteurs de ce qui compte dans la vie auxquels l'argent ne peut rien.
Bah déjà, effectivement, avoir du style, ça suffit
pour
pas.
Pour manger, l'argent, etc. Ça mais là, il disait, regardez, elle a grandi, elle est héritière, elle a grandi, elle n'a pas d'amis, elle n'a que des gens mornes autour d'elle. C'était pour expliquer
l'amour, ça s'achète pas.
L'arrivée du gars qui a profité d'elle à un moment, mais justement avec ce côté, le mec il est venu, il a fait gaulerie. Ah, et il dit ça, tu vois, en fait, ça n'a pas de prix, même pour une milliardaire. Elle s'est fait yèche pendant des années. Il y a un gars, il arrive, il a le smile, il dit ouais, viens, on sort et tout, on va rigoler. Ça, tu vois, et il dit tu vois, ce secteur-là, l'argent n'y pouvait rien. Elle pouvait pas payer pour quelqu'un qui l'a fait kiffer, qui l'a fait rigoler, qui l'a, tu vois.
On a parlé de masturbation et de bonheur liés à la richesse. C'est incroyable.
Tu peux acheter des médicaments, pas acheter la santé. Tu peux acheter une maison, tu peux pas acheter un foyer. Ouais. Tu peux acheter du sexe, tu peux pas acheter l'amour. Voilà. Ça résume un peu ce que tu veux dire.
Je suis quelqu'un devant la télé, je suis devant Canal, je suis devant YouTube. Je vois des gars qui parlent d'aller bien et tout.
Mais je vais mal.
Qu'est-ce que je fais?
C'est quoi? Si je vais mal?
Ouais. Je vais mal. C'est la première fois qu'on. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais bien, en fait. Je me sens qu'il y a un truc qui va pas.
Il faut s'entourer de gens.
Il faut aller voir un psychiatre.
Alors, il faut distinguer deux choses. Le fait qu'il y a des moments où ça va pas.
Ouais, des moments où on est.
Il y a des fois, ça va pas. On a le droit de.
Bah oui, t'as le droit de pas aller.
On est cyclique.
Mais évidemment, ça dépend de plein de choses. Imagine, t'as passé une sale journée, ton patron t'a pris la tête, tu t'embrouilles avec ta femme.
Mais Jimmy, est-ce que des fois tu vas pas bien?
Oui, bien sûr. Ouais, forcément. forcément. Des moments où on passe une journée difficile, où t'es happé par le travail et tu perds un peu la notion de ce qu'est la vie, en quelque sorte, parce que t'es sur 10 000 projets à la fois et tu te dis, mais attends, mais à quoi bon? Pourquoi je fais tout ça, finalement? Un projet amène un autre projet. L'anxiété de performance, de jamais être satisfait de ce qu'on fait. Je pense que ça, ça contribue un peu à la tristesse. Et du coup, c'est de se dire, bon, il y a des moments où ça va pas, mais est-ce que ça va pas au point où je veux plus sortir voir des amis, je veux plus aller au travail, j'ai plus de plaisir.
Ça, c'est les indicateurs, ça.
Voilà. Quand on perd la notion
de dépression.
De, voilà, exactement, d'envie. Là, ça veut dire qu'il y a peut-être une vraie dépression et qu'il faut consulter. Pour tout le reste, bah, il faut peut-être le verbaliser, en parler.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et faire du sport, ça paraît tout bête. Mais souvent, moi, il y a plein de patients.
Ça libère l'endorphine à fond. Hein.
Je vois des patients qui ont des... Alors moi, SOS médecin, je ne fais pas de suivi. Donc, je les vois une fois, je pose le diagnostic, allez voir votre médecin traitant. Et il y a des gens, je vois, ils sont en burn-out ou ils sont en dépression, ils n'ont jamais pris de traitement. Et je leur dis, votre dépression, moi, je pense qu'elle est légère à modérée. Donc, ce n'est pas une dépression sévère ici, mais c'est une vraie dépression. Et vous allez noter, faire, et je le note, hein, 30 minutes par semaine, 3 fois dans la semaine, d'activité sportive. 30 minutes, 3 fois par semaine. Et en fait, ça va agir comme un antidépresseur naturel. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, il faut être proactif. Et qu'il y a les médicaments, voilà, c'est une bonne chose. Il y a la psychothérapie, mais il y a aussi ce que je peux faire, moi, tous les jours, dans la vie.
Pour améliorer, ouais.
Donc, si on ne se sent pas bien, eh ben, sortez, courez, faites du vélo, de la marche, ça m'est égal. Exposez-vous aux arbres. Alors, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des câlins aux arbres. Mais les études ont montré que quand on va dans une forêt, simplement le fait de se balader au contact de la nature, eh bien, on diminue l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. On diminue l'autre hormone du stress qui s'appelle l'adrénaline.
Et qui, le cortisol qui maintient le sel dans... C'est de la,
qui fait de la rétention d'eau. Et qui est toxique pour le cerveau. Ça veut dire peut-être...
J'aurais dû faire une émission de télé avec vous. Vous êtes génial, les gars.
Non, mais ça veut dire qu'on
faire une émission de télé tous les deux.
un acolyte de ouf, genre. Parce que tu zappes, t'es obligé de rester. Tu zappes, tu te dis, attends, mais c'est qui? Pourquoi? Pourquoi ils sont là? Pourquoi il vient de dire cortisol?
Pif et recul.
Oui, c'est.
Excuse-moi.
Et donc, essayer de faire des choses du quotidien simples pour essayer d'aller mieux. Et si ça ne va pas mieux, ne pas hésiter à en parler. Et le médecin, il sert à ça. Et le conseil que je peux donner, allez voir votre médecin traitant, pas pour 10 000 motifs. Genre, le certificat, j'ai le nez qui coule et je suis déprimé. Allez le voir juste pour ça. Le médecin traitant, il faut être factuel en ce moment, il n'a pas beaucoup de temps à vous accorder. Il a 5, 10, 15 minutes au grand maximum. Donc, si vous venez avec 12 000 motifs, il ne va pas les traiter. Donc, allez le voir juste pour ça.
Là, c'est une dépression sévère à légère à modérée.
Il y a l'automne en plus qui arrive. Là, c'est une période où les
dépression
gens...
Saisonnière, ouais.
Dépression saisonnière. Dépression
saisonnière. Donc, on peut avoir une démotivation, notamment pour le sport et la diète, temps, faire attention.
Et du manque de lumière.
On a plus foutu pour foutu, on mange du fromage fondu.
C'est toi qui disais que c'est important pour que les enfants ils jouent dehors.
Ouais, exactement. La luminothérapie, s'exposer à la lumière du jour. Ça resynchronise l'horloge biologique. Et c'est un des moyens de lutter contre la dépression saisonnière. Et d'ailleurs, dans la dépression saisonnière, parce qu'elle survient souvent en automne, en hiver, on est moins bien, on mange plus, on a du mal, on dort plus, et bien on fait de la luminothérapie. Donc on achète une petite lampe de luminothérapie, une lampe classique, et on s'expose 30 minutes tous les jours. Mais une façon naturelle de s'exposer à la lumière, bah, c'est de sortir dehors.
Ouais.
On est tellement collé sur les écrans en permanence, dans les transports en commun et tout le tralala, et bien qu'on ne s'expose plus. Donc déjà, la lumière...
La lumière de nos écrans n'est pas de la lumière.
Rien à voir, ça n'a strictement rien à voir.
Ça n'a pas les mêmes effets.
Ça nous a tué les yeux, ça.
Ouais.
Moi, le premier, je vois plus rien. Je suis myope comme une taupe.
J'ai combien de doigts?
6.
T'as les doigts? T'as les doigts. T'as les doigts. T'as les doigts. Ça, c'est pour légère à modérée.
Ouais.
J'ai malheureusement ou heureusement, ça, le temps, ça m'appartient. Mais j'ai expérimenté la dépression sévère. Tout devient impossible. Est-ce que déjà, on peut. Le premier acte, c'est de reconnaître que ça ne va pas. Et de. En fait, le chemin est fou de dire je vais en parler à un médecin. Qu'est-ce qui va m'aider, quoi?
Souvent, c'est l'entourage qui signe un peu l'alerte en se disant « Non, mais là, vraiment, ça va pas. Vraiment, t'es au fond du trou, il va falloir faire quelque chose. » Et il faut bien comprendre que, en fait, la dépression, c'est la maladie psychiatrique la plus fréquente. Et c'est une maladie, en fait. Souvent, on pense que c'est un manque de motivation,
parce
de
que
volonté.
Tu dis « Aller courir », un mec qui est
dépressif. Il n'a pas envie d'aller courir, tu ne peux pas le sortir.
C'est pour ça que je t'ai dit « légère à modérée ». Je t'ai dit « légère à modérée ». La dépression sévère, là, pour le coup, c'est les traitements. Et malheureusement, même les traitements ne sont pas toujours très efficaces, malheureusement. C'est pour ça qu'on a aussi des nouveaux médicaments, la kétamine. On a parlé de c'est ketamine. Drogue, ça, c'est une drogue psychédélique qui est utilisée comme anesthésiant et qu'on va utiliser dans les dépressions sévères résistantes au traitement.
D'accord.
Et peut-être que plus tard, on aura aussi les champignons hallucinogènes, la psilocybine. Champignons.
Les psilo.
Ouais,
les. Rappelle, mangez-moi.
C'était ça.
Psilo, le chanteur, s'appelait. Il parlait des champignons.
Ah, je savais pas ça, ouais. Mangez-moi, c'est
pas
des champignons.
Mangez-moi,
il parlait des champignons. Mangez-moi, des champignons.
Il parlait pas des
twigs. C'est le chant des psilo qui surgit, je sais pas quoi, il le disait. Qui ouvre les portes de la perception. C'était un peu barré.
C'est une chanson de Guédreau.
Ah ouais, les enfants chantaient ça.
C'est une chanson de Guédreau ou de Guédré, je ne sais pas.
Non, bah c'est Guédreau.
Ah, okay, d'accord.
Il y a pas dépression sévère, effectivement.
Tu pas de bébé,
faire du sport, bougez-vous, c'est ça ne marche pas.
Du coup, il y a faut vraiment juste aller voir un médecin.
La dépression, c'est des anxiolytiques.
Parce que même aller voir le médecin, quand t'es en vraie dépression.
Se déplacer, s'habiller, tous ces efforts sont impossibles.
Qui te donne des clés aussi, peut-être t'as besoin de parler.
Mais un psy, c'est long. Un psy, c'est long. Un psy, il va dire revenez la semaine prochaine et cette semaine-là, elle est longue.
Bah ouais, complètement.
Et tu dis, je vais aller mieux maintenant. Je veux pas aller mieux dans 6 mois.
Tu veux même plus aller mieux. Dans la dépression violente, tu cherches pas, tu veux que tout s'arrête.
Malheureusement,
c'est le nihilisme total à ce moment-là.
Bah, c'est des maladies extrêmement complexes et d'ailleurs, on ne guérit pas de toutes les dépressions au moment où on le souhaite. D'où l'idée de trouver de nouveaux médicaments, comme ceux que j'ai cités, et de se dire qu'il faut du temps et que c'est une vraie maladie. Et en plus, on manque de médecins, on manque de psychiatres,
on
manque de psychologues.
On s'auto-médicamente pas parce que quête et
non, et surtout, là, tu as dit, on prend
parce que la quête et les champis, ça tourne.
Ouais,
Il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce que là, il y a des gens qui vont appeler tout leur ordi, on dit, ouais, je veux de laquer, ramène-moi de laquer et tout ça.
On est d'accord que il faut vraiment un professionnel.
Ils essayent vers ça, ils se tournent vers ça parce que la ketamine, c'est pas d'anesthésie. Pour cheval à la base.
Bah, c'est entre autres utilisé en médecine vétérinaire, mais on se rend à l'hôpital, on hospitalise les gens, on leur fait une perfusion de kétamine et en fait ça entraîne un état de conscience un peu modifié qui permet de faire de la psychothérapie et de changer en quelque sorte la perception que tu as de toi.
Mais on est d'accord, je le dis pour les gens qui nous écoutent,
non, il faut
être accompagné par un professionnel, par des chefs.
Voilà. Le message, c'est de se dire, si vous avez une dépression qui résiste au traitement, votre médecin est perdu, bah, il existe de nouveaux traitements. Et donc, dans ces cas-là, il faut aller vers les médecins hospitaliers qui peuvent vous proposer ça.
Ouais. À l'hôpital.
Ouais.
Et cette kétamine, on la fait sous perfusion, même en intranasal. Sauf que ça coûte un peu cher, donc ça se délivre que à l'hôpital. Donc, peut-être que le champ des traitements dans la dépression va évoluer dans les années à venir. Et il y a un essai en ce moment en France, notamment sur les champignons hallucinogènes.
Il ne faut pas avoir peur de ça. Excuse-moi, je te coupe, Jimmy, mais là, il y en a plein de gens qui se soignent par le cannabis. Et ce qu'il y a, non, il y a des pays qui l'autorisent parce que c'est thérapeutique à fond.
Alors,
pour les gens, certains pensent que le cannabis, c'est une drogue, alors que ça soigne des dépressions.
Alors, ce n'est pas tellement dans la dépression, c'est plutôt dans la douleur l'utilise, okay. Notamment chez les patients qui ont un cancer.
Le cannabis, tu dis, ça peut soigner des troubles anxieux. Et c'est, le trouble anxieux, c'est un des symptômes de la dépression. Mais moi, j'ai vu des amis à moi tomber dans le cannabis et s'éduquer leur système entier au cannabis, prendre du cannabis pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ils ont une telle dépendance psychiatrique, psychologique ou peut-être même physique. J'ai pas l'impression que ça les a soignés de la dépression. Ça les a entretenus dans un système extrêmement...
C'est pas du tout un traitement de la dépression, hein, le cannabis.
Ah d'accord, donc faut le dire, c'est pas un traitement.
C'est pas un traitement.
Non, parce qu'il y a des gens qui disent, je vais me bombarder la tête, le dragon va s'éteindre et c'est OK.
Et ça perturbe aussi le sommeil, en fait, le cannabis. Souvent, on prend le cannabis pour essayer de s'endormir. Donc en fait, tu t'endors plus rapidement,
mais
ça perturbe ton sommeil. Et il y a un effet rebond. Dès lors que tu arrêtes le cannabis, tu vas te mettre à faire des cauchemars, tu vas moins bien dormir. Donc il y a une véritable addiction, c'est une drogue. Et chacun est libre d'en consommer ou pas. Et d'ailleurs, on est assez hypocrite en France. On est un des pays qui en consomme le plus. La seule chose, c'est que s'il y a un message à donner, c'est éviter surtout chez les plus jeunes. S'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, ce qui se passe, le cannabis, quand on en prend avant que toutes nos connexions soient établies, avant 20 ans.
Ça peut les bloquer.
Ça ralentit, en fait, la transmission de l'information dans le cerveau. Ça veut dire que les neurones ne communiquent pas à la bonne vitesse. C'est comme si on avait de la 2G. Au lieu d'avoir de la 5G. Et donc, il n'y a rien de pire que du cannabis sur le cerveau d'un jeune. Après, quand vous êtes adulte, libre à vous de le faire. Il y a des risques. Mais c'est voilà, on est chacun. Mais vraiment, s'il y a un truc à faire, c'est
déjà le cas pour l'alcool. Je préfère ce discours-là assumé de dire attention.
C'est le cas pour l'alcool déjà.
Ah bah, bien
sûr. C'est que ce qu'on dit pour l'alcool, de dire tant que t'as moins de 18 ans, faut pas boire parce que c'est mauvais pour ton développement. Juste, ça vient juste du fait que le cannabis est pas légalisé et que du coup on peut pas.
Alors c'est vrai qu'on est hypocrite entre l'alcool et le cannabis en réalité. Hein, l'alcool, cannabis, j'ai envie de dire, c'est presque le même combat en quelque sorte, dans le sens où si on en interdit un, il faut en interdire l'autre.
C'est intéressant parce que je pense qu'il y a plus d'adultes qui vont dire à leur gamin, bois pas, t'es trop jeune pour boire, tu pourras boire tranquillement l'apéro avec modération
si
quand tu seras plus
vieux.
Mais comme le cannabis, tu vois ce que je veux dire, le fait même que ce soit quelque chose d'illégal. Fait que, le gamin, il va pas dire à son rep, peut-être un peu plus maintenant, mais il va pas dire à ses parents, je fume du cannabis.
Après, on est dans une position compliquée parce que le cannabis, on va dire, OK, on va finalement le légaliser, l'autoriser, peu importe comment on appelle ça. c'est quand même une drogue qui entraîne des maladies. Est-ce qu'il faut quand même autoriser un truc qui favorise des maladies?
C'est par exemple, c'est le THC qui est dedans.
Ouais, c'est le THC, parce que dans le cannabis, il y a du CBD. CBD qui est en libre accès.
Cannabidiol.
Cannabidiol. Et du THC qui est responsable des effets un peu psy. Et ce cannabis, il augmente par exemple le risque de faire de l'emphysème pulmonaire, des cancers du poumon. Donc on a de plus en plus de cancers du poumon chez le sujet jeune à cause du cannabis.
À cause du THC, c'est ça ?
Et du THC dans le cannabis. Ça augmente le risque de cancer du testicule. Donc il faut le savoir. Donc en même temps, on a quelque chose qui peut peut-être aider certains, notamment quand ils ont des douleurs chroniques, des patients qui ont une sclérose en plaques, qui ont de la spasticité. Ça peut aider, mais en même temps, ça reste une drogue avec des effets secondaires. Donc,
mais vu que les gens, de toute façon maintenant, ils en prennent. Toi, tu penses que ça augmenterait le nombre de... Ça augmenterait la consommation, que ce soit légalisé?
Je me suis posé la question après avoir été aux États-Unis où j'étais à Los Angeles. Et en fait, là-bas, c'est en libre accès. En fait, tu vas dans un magasin, mais c'est encadré. Ça veut dire que tu sais où est-ce que tu l'achètes. Tu connais la quantité, la provenance. Ton nom est enregistré. Je n'avais pas ma carte d'identité. Ils m'ont dit, non, vous repartez. On va vérifier que vous êtes majeur. Je voyais bien que je suis majeur. Ils n'en avaient rien à faire. Donc, c'était encadré.
Ouais, ils sont très durs là-dessus au States.
Ils sont hyper stricts. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux un système encadré ou un système à l'arrache où tu prends des produits coupés X fois de mauvaise qualité? Ouais. Pour autant, ça reste une drogue. Donc, tu vois, moi, d'ailleurs...
Bon, tu sais pas ce que tu fumes, des fois. Il y en a qui mettaient du verre pilé, tu sais, dans les... Il y avait eu ce bad buzz.
Le cristal.
Ouais. Dans le
cristal, ils mettaient ça.
Dans la beuh aussi.
Ouais. Ah, ou dans la weed, carrément, putain.
Après, ça allait dans les poumons des mecs. Il y avait plein d'accidents.
Donc, il y a la question de la provenance, mais ça reste une drogue. Donc, en même
au-delà des opinions, est-ce que tu sais, peut-être que t'as pas la réponse, mais est-ce qu'il y a eu des recherches, là, qui ont été faites? J'imagine que c'est un gros sujet. Est-ce qu'on sait?
Alors, de ce que je sais, c'est pas incitatif. Alors, c'est vrai que souvent, on se dit, j'autorise la cigarette, donc j'autorise. Si j'autorise la cigarette, j'autorise le cannabis. Si j'autorise le cannabis, l'escalade.
La pente glissante.
La pente glissante. En fait, elle a jamais été prouvée, cette pente glissante.
Je parle pas de la pente glissante, je parle.
Les consommateurs de cannabis.
Est-ce que les pays où ça a été légalisé, ça a augmenté la consommation?
J'en ai aucune idée.
Ou c'est, tu sais pas.
Ça a augmenté les petits commerces qui ont ouvert pour se faire de l'argent avec. Ça a créé de l'économie.
Oui, non mais tu vois, surtout je veux dire, est-ce que c'est une incitation? C'est toujours compliqué. Il y a eu des débats pareils, je sais pas, sur les jeux vidéo. Est-ce que ça rend violent?
Ça rend pas violent.
Ou est-ce que ça rend moins violent? Est-ce que tu vois, il y a ce truc de, est-ce que le jour où c'est autorisé, bah du coup, en vérité, t'as les trois quarts des gamins qui en voudront plus, puisque de toute façon c'est autorisé, c'est pas marrant, parce que c'est la rébellion. Je me demandais si t'avais, mais tu.
Bah, on peut se dire que naturellement, ouais, c'est autorisé. Pourquoi pas y aller? Effectivement, moi, typiquement, demain, si c'est autorisé, c'est vrai que tu dis tu vas dans un magasin, bah, pourquoi pas, j'irai dans ce magasin. Mais est-ce que sur la masse, ça change quelque chose? Je pense que le consommateur de cannabis, il va consommer quoi qu'il arrive, s'il a envie. Ouais. Donc, autant lui proposer quelque chose de qualité, tracé. Et pourquoi pas que l'État se fasse un peu d'argent, dans un contexte économique un peu compliqué. Mais en même temps, c'est une drogue. Donc, je reviens toujours à ce truc de ça reste une drogue et s'il y a quand même des effets secondaires. Quelqu'un qui a des prédispositions à la schizophrénie, lorsqu'il consomme du cannabis, il augmente le risque de passage vers la schizophrénie. Ouais. Donc en même temps, on peut pas non plus dire que genre allons-y. Mais en même temps, tu vois, on est toujours c'est un vrai en même temps.
Il y a plein de gros fumeurs qu'on finit complètement ouf. Hein. Moi, le premier, j'ai fait.
T'as senti ça?
J'ai fait une psychose toxique à la première consommation par la bouche de chocolat au goût au Canada. Donc c'est légal là-bas, les mecs. J'ai raconté ça dans une vidéo YouTube. Un bad trip de ouf dans un aéroport où c'est paranoïa à un level. Je croyais que tout le monde me filmait.
Bouffée délirante, quoi.
Bouffée délirante, ouais. Je croyais que j'allais mourir aussi. Le cœur qui s'emballe et que la fin, c'est qu'il fait une crampe et ça. Et ma femme, elle vivait le même truc en même temps parce qu'on a mangé le même nombre de petits chocolats. Je croyais que c'était goût cannabis, moi. Je savais pas que c'était des trucs au THC 100 mg.
En plus, ils mettent des dosages de fou, du coup, dedans. Ouais. Ils mettent des gros dosages.
Ouais, ça m'a arrivé un bad trip à l'aéroport.
Donc, ça veut dire, toi, typiquement...
Tu t'enfermes dans un avion derrière, mon pote.
Non, mais ils nous ont laissé... on ne pouvait pas reprendre l'avion. Tant que les hôpitaux ne signaient pas le fait qu'on puisse reprendre un avion. Dans un aéroport, tu imagines le truc. J'ai allongé par terre, en train de croire, je vais mourir. Il me filme, arrêtez, c'était de la folie.
Donc plus jamais t'as retouché à ça?
Non, c'est impossible.
Bah typiquement, toi, t'es exactement l'exemple parfait de...
Du schizo, quoi,
qui a peut-être une prédisposition. Maintenant, le mode de vie sain fera que ça sera certainement protecteur pour ta santé mentale.
Je vois tout à fait cette protection du mode de vie sain, parce que c'est important.
Ouais, bien sûr. Je m'accroche à ça, en fait. C'est comme une addiction, c'est comme une prise de drogue régulière. Je mange comme ça, je fais mon petit truc, faut pas que je dérape, c'est mon
sommeil,
petit univers,
sommeil,
c'est ma petite niche,
mon sommeil,
mon nombre de training. Et je pourrais en parler des heures, j'ai envie de côtoyer que des mecs qui... Tu sais, je m'éclate à parler de ça avec Il est moins drôle, Seth Gecko, depuis qu'il a son.
Non, mais t'as trouvé, c'était geek du sport, t'as un geek de la bonne.
Seth Gecko, mieux, ça passe le bichon.
C'est ça, ouais. T'as vu ouais, en même temps, j'ai gardé le dob pour rester un peu.
Mais est-ce que ça te crée un meilleur futur? Tu sens que ça te crée un meilleur futur, de meilleures fréquentations, des meilleurs. Ça tire vers le haut, quoi.
Ouais, ouais, ça tire vers le haut. Et puis, j'ai une communauté, j'ai des réseaux sociaux, et ça amène les gens à faire du sport, à avoir une hygiène de vie plus saine. Et après, un mec qui commence à prendre goût à son corps, qui se trouve beau, qui gagne de la confiance en lui, et qui dit « Ouais, mais quand je picole, je deviens un peu grassouillé. » Tu sais, ça l'incite à aller vers un truc positif de, ouais. De se sentir bien, de bien-être.
Et juste, j'aimerais juste, parce que on est dans une émission qui est regardée, on doit se le dire, on doit dire les choses, c'est hyper important. Quand on dit automédication, attention, le médicament, kétamine, tout ça et tout, mais se soigner, si à un moment donné, vous vous mettez des doses à l'alcool pour aller un peu mieux et tout, il y a un truc qu'il faut faire attention. Tu sens que si tu prends de l'alcool, pas pour juste faire la fête, mais pour aller un peu mieux, c'est comme un peu le cannabis pour éteindre la dépression.
C'est le piège de un verre, c'est trop, et une bouteille, c'est pas assez.
Un verre, c'est trop, une bouteille, c'est pas assez.
Un verre, ouais, c'est ça. Parce que si tu prends un verre, c'est déjà beaucoup. Tu vas continuer à boire beaucoup derrière. Et là, après, la bouteille, c'est jamais suffisant. Il en faut encore et encore. C'est une expression de l'alcoolisme, un peu.
L'idée, c'est de se dire que si l'alcool ou le cannabis, parce qu'on va être lucide, les gens fument du cannabis et consomment et prennent de l'alcool. On va pas commencer à dire aux gens arrêtez, parce qu'ils vont pas arrêter de toute façon.
Non,
le message réduire. Qu'on peut donner.
Si, je suis sûr, moi, ils vont arrêter.
Un usage.
Regarde, arrêtez.
Pessimiste, arrêtez.
T'imagines demain tout s'effondre. Ouais, j'ai vu dans l'émission.
C'était le truc qu'on avait jamais essayé, en fait. Il fallait juste leur dire arrêtez. Mais verre, c'est trop. Un verre emmène un deuxième verre qui emmène un troisième.
Ça serait genre
un
verre, c'est trop.
C'est pas...
Un verre, c'est trop, puisqu'après, une bouteille, ce sera pas assez. Quoi.
Voilà. Merci de l'avoir compris. Putain, merde, là, j'étais en train de patauger dans
Fais gaffe, un verre, c'est trop, parce qu'à un moment, une bouteille sera plus assez. Voilà. Je vois ce que.
Mais
je
c'est
vois
très bien attention, peut-être, philosophie. Plus jeune.
Merci,
les enfants, les ados. Et puis, si ça vient dans un contexte où on cherche à être moins stressé, à mieux dormir, à oublier, à...
C'est faux.
C'est que là, il y a un réel problème.
Et donc là, c'est un indicateur, c'est un indicateur symptôme.
Formel que ça ne va pas. Alors que je ne dis pas que c'est bien de boire de l'alcool en soirée.
Non.
Mais si votre kiff, c'est de temps en temps de faire ça, bon, le mieux, c'est pas le faire. Mais
si
on ne va pas venir vous chercher.
Si je me prive de manger pour aller bien, là aussi, alors dans ce cas-là, tu te trompes alors. Peut-être, tu sais, de dire,
on est sur un autre paradigme encore, parce que là, vraiment, alcool, cannabis, c'est des drogues ou des substances qui peuvent vraiment t'entraîner des maladies très, très graves, ou alors qui peuvent cacher des maladies très graves.
Tu comprends quand il dit, il boit un coca zéro et qu'on lui dit, ouais, mais même ça, c'est pas bon. Tu peux dire, ouais, mais à un moment donné, je vis, en fait, un petit peu.
Ouais.
Parce que vivre, c'est quoi? C'est de profiter des plaisirs que la vie nous donne.
Et si votre plaisir, c'est de boire un verre de temps en temps, et ben, moi, j'ai rien contre. Par contre, si ce plaisir est lié au fait que, je vais oublier la douleur.
On éteint le dragon.
Exactement. C'est qu'il y a un problème. Et c'est que là qu'il faut consulter. C'est peut-être ça qu'ils disent. Ah,
c'est juste ça, je voulais qu'on rappelle ça.
Il y a l'idée du plaisir aussi, je pense. Tu vois, par exemple, tu parlais du coca.
Ouais.
J'ai des potes qui ont arrêté parce que leur prise de conscience, c'était pas est-ce que ça nuit à ma santé. C'était, mais je n'y prends aucun plaisir. Je suis plus en train de me dire, ah, mon bon coca.
Ah, moi, je le kiffe.
Je suis juste vénère quand j'ai pas de coca.
La gorge, j'ai une coca pétillante dans la bouche. Non, mais tu manges du salé, frérot.
Ça veut dire que ça. Tu manges du piment.
Parce que ça te faisait plaisir. Moi, j'avais un pote, c'était la bouteille de coca à côté du bureau de 2 litres.
Dans les céréales,
il la descendait dans l'après-midi en travaillant. Et en fait, à un moment, c'est parce qu'il s'est rendu compte. Il dit, mais je suis pas en train de dire, je kiffe mon petit verre de coca après un petit truc salé. C'est ça. Je n'y trouve aucun intérêt réel. Je me suis rendu accro. C'est le rapport à la cigarette. Tu vois, moi, je fume. Il y a vraiment des cigarettes. Il y en a une ou deux, elles te font plaisir. Et tu te rends compte, les autres, mais non. Les autres, je suis juste en train de...
D'enculer ton paquet, quoi.
Ouais, sans même m'en rendre compte. C'est plus un plaisir. Non, mais c'est ça. C'est même plus un plaisir, c'est plus rien. Et pareil pour l'alcool. Tu vois, moi, j'ai une amie qui s'est rendue compte, parce que cette histoire d'alcool social ou pas social, etc. Elle m'a dit, non, mais là, je vois bien que je commence à sortir pour boire. Parce que je me dis, faut pas que je boive toute seule chez moi. C'est horrible de boire tout seul chez soi, ça veut dire que t'es alcoolique. Donc, tu sais quoi? Je vais sortir tous les soirs. Mais elle sortait même plus pour voir des amis ni rien. Elle disait juste, au moins un apéro. Genre, y a pas quelqu'un dispo pour un apéro? Et donc, ce qui la drivait, c'était l'alcool.
C'est intéressant.
C'était pas de voir les gens. Ce qui l'intéressait, c'était l'alcool. C'était pas de voir les gens.
Mais là, c'est typiquement là où ça commence à devenir problématique. Parce qu'on va culpabiliser tout le monde. Ouais. Parce qu'à force de culpabiliser tout le monde, d'ailleurs, nous, les médecins, on est souvent comme ça. Faites ci, faites pas ça, ça marche plus. Et nous, on veut chercher ceux qui sont à risque de basculer vers une maladie ou vers un truc grave. Ouais.
Donc, un des indices, l'endroit, c'est est-ce que j'y prends du plaisir?
Bien sûr.
Tu vois, et en fait, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on croit qui n'y prennent plus de plaisir parce qu'ils peuvent même faire semblant que ça leur fait plaisir. Ils vont dire, oh, allez, un petit apéro, ça me fait plaisir, mais en fait, non, ça leur fait pas plaisir. Ils sont dans l'alcoolisme.
Moi, en tout cas, je prends du plaisir à faire mes régimes.
À redécouvrir les plats fat un peu super caloriques une fois de temps en temps, je les apprécie mieux de m'en priver, mais toujours c'est une histoire de bon panache, de savoir bien les placer dans la semaine. Et moi, je me régale à manger. Je redécouvre les goûts, parce qu'on nous a que habitués à du salé et du sucré, finalement.
Ouais, c'est vrai.
Et là, quand tu retires le sucre et le sel, tu redécouvres les aliments. Ouais. Je trouve ça... Les brocolis, c'est un truc que t'aurais pas pu me le faire manger, mais c'est impossible. Là, non, le légume vert, c'est dur pour plein de gens de le manger. Et là, je me régale d'en manger avec du citron, un peu de sauce tomate que je fais moi-même. C'est super bon, de ouf.
Complètement, c'est validé. Et moi, j'ai une anxiété maintenant quand je fais mes courses, parce que les gens me jugent.
Ils me regardent. Il y a des barres chocolatées là-dedans, tu m'amènes.
Non, mais grave, c'est qu'une fois, je devais faire une vidéo sur genre le Mars, Snickers.
Ah oui, j'ai vu ça. On peut en parler de ça.
T'as tout acheté pour faire la vidéo. Et ils m'ont dit, alors, tu te fais plaisir.
Exactement. Et je me suis justifié comme une victime. Non, non, mais madame, c'est pour faire des vidéos.
C'est pour faire des vidéos.
C'est relou. Même des fois, je vais manger des burgers et je vois les gens, ils me regardent. Ah, mais c'est pas le docteur et tout. Et comme une victime, je commande une salade. C'est parce qu'il y a trop de gens qui me regardent.
La pression
sociale. Tu vois ma vie maintenant, ce que c'est là. Tu vois, je suis obligé de.
Arrêtez de juger, il va s'isoler socialement après.
Bah, c'est exact. Je vis la même chose. Moi, quand j'étais en Thaïlande pendant 10 ans, j'avais un bar. Et quand je refusais de boire de l'alcool, je décevais les gens.
C'est super dur, ouais.
Bah oui.
J'ai pas de barman.
J'ai arrêté de.
Si je bois pas, je vexe le client.
J'ai arrêté mon business à cause de ça. Déjà, pour supporter les bourrés, c'est mieux d'être bourré. Donc, comme j'avais arrêté de boire, je les supportais que quand ils faisaient tomber leur portefeuille ou un billet bancaire. Mais sinon, ils étaient déçus quand je disais, bah, prends-moi de l'eau. Déjà, ça faisait tourner moins le bar, parce que le concept d'un barman, c'est d'inciter à la consommation et de se faire payer des verres, de pas aller boire et tout ça. Et ils étaient déçus de voir cette gecko, l'image que j'ai construite pendant tant d'années. Espèce de viriliste macho qui incite à la bien manger, bien boire son petit coup, son petit verre de Sky et tout. Et maintenant, c'était dégoûté, déçu.
C'est vexant.
Et aussi, quand je suis un commerce.
Je t'offre un shot. Tu dis non, c'est vexant. Ouais. Ça, c'est hyper dur.
C'est
dans l'alcool.
De dire ça, c'est
quand quelqu'un t'offre de l'alcool et que tu dis non.
Ouais.
Alors, encore plus quand.
Parce qu'il avait envie prio, de dire putain, je vais lui mettre des thunes, il les veut pas. Il le prend.
Ouais, mais même au-delà des thunes, c'est attends, il refuse mon cadeau. Tu vois, il y a un truc.
Quel cadeau?
C'est fou. Hein.
Et je me faisais payer des bouteilles d'eau. Après, c'était purement. Mais en parlant de Thaïlande, pour fermer la parenthèse, ils ont réautorisé le cannabis là-bas. Donc, il y a plein de petites boutiques qui s'est mis à en vendre. Et ils ont sorti de prison tous les mecs qui faisaient du business.
C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y avait eu le grand scandale. Comment il s'appelait Blanc, quelque chose.
Non, lui, c'est autre part. Celui qui avait ça dans ses bouteilles de plongée, tu sais pas.
Ouais, c'est pas en Thaïlande. Non, c'est pas en Thaïlande. C'est en Indonésie, lui. Ah ok, ouais. Je crois que c'est en Thaïlande qu'il a fait de la
mais
tôle.
Non, c'est Indonésie.
Genre le mec a pris 30 piges, je sais pas.
Et là, et du coup, ils ont lâché tout le monde, ils ont redonné les saisies, et ils ont redonné de l'argent aux prisonniers. Avec une somme incroyable. Je l'ai mis sur un TikTok qui traîne sur mon compte TikTok. Je vous invite.
On dirait un rêve.
C'est clair.
Les mecs, d'un seul coup, comme ça, du jour au lendemain, ils ont été libérés.
Il y a un drogué qui a trouvé la lampe du. C'était son souhait. Et tu sais quoi, tu me les sors, tu leur donnes de la maille et tu leur rends.
T'as tourné 7 ans, on te libère. T'avais pris 34 ans, je crois. Ouais. Le mec, il sort. Il dit, putain, j'ai mangé tout ça pour une décision. Parce qu'ils disent que c'est Bouddha qui fait pousser une plante. Donc, autant la consommer, finalement, puisque ça vient de la nature. Pourquoi on priverait un humain par rapport à leur philosophie?
Ça arrange bien la TVA du coin.
Il n'y a pas de TVA là.
Non, mais t'as compris.
Ils ont regardé les comptes, ils ont fait. Non, mais Bouddha, je crois, il a dit un peu de truc.
Lisez Bouddha, les gars, quand même. Lisez Bouddha, c'est important. J'aimerais vous proposer un petit jeu. C'est le jeu des punchlines du Gex.
Yeah,
j'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie.
Ah, c'est une phase de Aurel en plus, ça, dans mon album.
De quoi
il termine le couplet en disant j'ai toujours rêvé de dire ça dans ma vie.
C'est vrai, ça.
On est toujours fan.
Morceau Lève les draps au lieu de Lève les bras qu'on a fait ensemble dans mon album.
J'ai toujours rêvé de le faire.
C'est de buzz de blex.
Bistouflex.
Et il y a une.
Ceinture Gucci.
Attends, il y a une de tes rimes qu'on a toujours adoré, c'est...
Ah bah moi, c'est Roche-Beaubois.
C'est Roche-Beaubois.
Ah ouais.
J'arrive comme une pavasse de Roche-Beaubois.
Je veux meubler l'appart de ma mère chez Roche-Beaubois.
Celle-là, pour moi, celle-là, elle est...
J'aurais pu continuer en disant avec une paire de bottes en peau de boa.
Et un joli boa.
C'est ça, peau de boa.
Un boa,
avec mon boa comme régime.
Maintenant que t'as un bichon.
C'est vrai.
J'arrive avec mon plus beau boa.
C'est bon, Barlow.
Ancien rappeur aussi. Ancien rappeur.
Aussi.
Non, je vais dire ancien
aussi.
Rappeur. Non.
Wow, attends,
ancien rappeur.
Ancien bodybuilder. Il est aussi ancien plein de
on
trucs.
On est les mêmes. Ça qui est ouf.
Oh, ça tue.
C'est par rapport à la bouffe.
Ok.
C'est. Je préfère le goût du piment.
Alors, attends, c'est quoi le jeu? Il y a un jeu.
J'ai demandé à Jimmy Mouette de réagir un peu sur les punchs.
Ah oui, la réaction. Ah oui, c'est ça. La réaction du médecin. à la punchline.
Écoute bien celle-là.
On vous a créé un concept d'émission. Là,
je préfère le goût du piment que l'hypocrisie de sucre.
Je préfère la vérité du piment que l'hypocrisie du sucre.
Est-ce que d'un point de vue de la santé, ça fonctionne ?
Alors oui, le piment, c'est mieux que le sucre. Si on prend d'un point de vue purement pragmatique, le piment contient ce qu'on appelle de la capsaïcine, qui est une molécule anti-inflammatoire. Et d'ailleurs, si on a une espèce de rhino, le nez qui coule, le fait de prendre du piment de Cayenne est un antidouleur. Et contrairement aux idées reçues, le piment ne donne pas d'hémorroïdes. C'est plutôt protecteur.
Est-ce que c'est dangereux de manger du piment ?
Pas du tout. Non, il n'y a pas de risque.
C'est bon pour la santé même ?
Et ce serait même plutôt protecteur, notamment pour le tube digestif, plus que néfaste.
Alors, donc, apparemment, dans l'extrême-extrême, on est d'accord que dans l'extrême-extrême, tu sais, il y a les piments là.
Alors, il y a d'ailleurs un gamin qui est mort, notamment aux États-Unis, en mangeant la chips la plus piquante.
Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y avait des prédispositions ?
Oui, exactement. Il y avait un facteur prédisposant. Et en fait, ça a libéré un truc qui a créé une méga allergie. Ouais. Parce qu'il y a eu une concentration tellement forte de piment le plus piquant du monde.
Donc
faites pas ces jeux débiles, parce que voilà, c'est dangereux, ça apporte strictement rien. Mais le piment...
Quel intérêt, à part faire des likes ou des vues, c'est ça la vie.
Mais cuisinez-vous des sauces, allez-y par palier, faites-vous des kiffs, mettez des fruits, mettez des trucs avec du piment et tout, ça va vous relever vos plats. C'est ça le piment,
c'est une culture. Ça donne un diarrhée, on est
d'accord. Ça peut accélérer un peu le transit, mais bon.
C'est aussi une bonne astuce pour quand tu dois réduire le sel. Parce qu'en fait, quand tu mets du piquant, tu mets du piment, t'as moins envie de saler. C'est déjà relevé.
Le paprika, ça pâlit quand tu fais des diètes à rajouter ça. C'est comme ça que tu mets des condiments. Pardon.
C'est vrai.
Ail, paprika fumé, ail fumé.
C'est validé.
C'est bien.
Vends pas ton âme au diable, mais donne ton corps à la science.
Ça dépend ce que la science va faire de ton corps.
tu ne sauras plus.
Ah ouais, c'est vrai, tu ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a besoin, mais...
Non, mais on peut parler du don d'organes, par exemple.
Oui, alors c'est don de... C'est pas tout ça.
Ah, on le donne à une forme de science.
Non, mais il y a eu des petits scandales sur...
Ah bon, il y a une forme de science dans l'organe, en fait.
Alors, pardon, alors je ne savais pas, attendez, je veux pas...
Non, c'est pas un scandale, c'est pas grave.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
C'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent, ah, ils voulaient donner leur corps à la science, mais comme ils ont découvert qu'il y a des premières années de médecine qui baisaient des têtes de cadavres.
Alors, c'est pas tout à fait ça.
Un peu.
Mais c'était en gros effectivement
jouait avec
qu'on appelle le charnier. Et en fait, à la faculté de médecine, les corps qui étaient donnés à la science n'ont pas très bien été respectés. En gros, il y a des photos qui circulent avec des corps, c'était atroce, empilés dans des conditions catastrophiques, et les étudiants faisaient des dissections, mais du coup, le corps n'était pas respecté. Or, quand tu donnes ton corps à la science, tu t'imagines que tu vas faire progresser la science, et ça peut, certains vont le faire quand ils ont des maladies un peu rares. Mais bon...
Je préfère vendre ton âme au diable ou donner ton corps à la science.
Ah non, je donne mon corps à la science.
Voilà.
À choisir. Voilà.
Voilà, on aurait dû commencer par là.
Parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Tu vas vendre son âme au diable ou donne ton corps à la science.
Ah ouais, c'est ça.
Je te tiens, je te traîne par la barbichette. Le premier qui pleure, on le noie dans la tartiflette.
C'est totalement débilos. Mais ça, c'était pour affirmer ma franchouillardise.
Oui.
Et j'étais le premier rappeur à faire intervenir des plats bien français. Ouais, parce que
la tartiflex.
Comment peut-on résister à la tartiflette, docteur? C'est ça que ça veut dire. C'est impossible.
Et surtout, peut-on se noyer dans la tartiflette? Parce que j'ai l'impression qu'en termes
à la tête dedans.
Pour moi, ça va faire des bulles.
Ça fait des bulles comme Louis de Fufu dans l'usine de Bubble Guns. C'est là. D'ailleurs, j'ai fait dans mon restaurant de burger un burger qui s'appelle le tartiflex. Le tartiflux. Voilà, j'aime bien triturer les mots, en faire des burgers rigolos, qui est au fromage à raclette avec des lardons, qui rappelle un peu. Alors, je vous conseille la raclette au Morbier quand vous n'êtes pas en région.
Ah ouais,
Morbier. Parce qu'il y a de la cendre, où ils ont collé du vin sur la cendre. C'est ça qui fait l'espèce de trait noir, c'est pas du moisi. Parce que je le savais pas, moi je l'ai appris hier, ça, mon gars.
Alors, c'était de la cendre jadis. Mais ouais, c'est plus de la cendre aujourd'hui, maintenant c'est autre chose. Je crois que c'est un champignon.
Peut-être, mais ils appellent pas ça un champignon. Et du coup, c'est très bon, c'est un goût de vin. Mais incroyable. Donc faites vos raclettes au Morbier.
Et le vin, c'est du moisi.
Tout ce qu'on dit, c'est un peu sur Internet, à la télé. Vérifiez toujours.
C'est vrai.
Les sources. Attention.
Ah ouais.
Voilà. Même si je dis des bêtises, je ne suis pas le savoir. Vraiment, je.
En plus, tu choisis bien les punchs, tu me fais plaisir.
C'est un jeu qu'on a écrit avec un ami qui s'appelle Greg Romano, qui m'aide à écrire cette émission. Et je le salue aussi.
Merci Greg Romano.
J'en ai quelques-unes, elles sont un peu extrêmes, mais avec la chiasse que j'ai, je suis pas prêt de leur céder le trône. Bah ça, tu peux pas valider.
Prendre du smecta, quoi.
Non, mais c'est une manière de garder le trône, la position du trône, l'ego trip durable.
Ça, on l'a compris.
Avec la chasse que j'ai, je suis pas prêt de leur céder. Avec tous les piments que je.
Ouais, ça marche avec la punchline de la première.
Voilà.
Mais donc, t'as un gros passif thaïlandais. Donc,
je me suis tué le ventre.
L'éducation du piment.
J'aime bien, mais j'ai vite des bouffées de chaleur et je deviens vite rouge. Donc, on peut vite te dire, ouais, mais il va pas bien, là. Si, j'aime bien, mais j'applique. Je deviens rouge et tout de suite, ça effraie. Voilà. Je fais des concours de rougeur avec des autres potes, c'est rigolo.
Dis pas à un zoophile que t'as un chat dans la gorge.
Elle est incroyable, celle-là.
Je pense qu'il n'y a même pas de jeu. Il n'y a même pas de jeu. On se fait des punchs de 7. Nico, ouais. Ça va, et on est
c'est
content.
C'est moi qui réagis.
Non, c'est voilà, mais on est content, tu réagis.
Non, mais il y a des questions pour le docteur.
Non, mais là, si. C'est moi. Non, mais
j'ai
là,
une question clac-clac,
vas-y.
En deux bandes.
Abuse.
On est d'accord qu'on ne peut pas attraper froid.
Ah oui, c'est attraper froid. C'est quoi ce mythe d'attraper froid?
Alors, on n'attrape pas vraiment froid, effectivement. Le froid est un facteur favorisant des infections virales, parce qu'on va rester à l'intérieur, on va pas aérer, on va être proche les uns des autres. Les virus vont survivre beaucoup plus longtemps lorsqu'il fait froid. Quand il fait vraiment très, 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 très froid, ils ne survivent pas. Et donc, le froid est un facteur favorisant. Pourtant, le froid, il met pas des patates de forain. Vous n'allez pas tomber malade avec le froid, mais c'est un facteur prédisposant. Donc,
si je suis seul, alors je peux pas attraper un rhume.
Non, mais tu peux
si je suis seul au milieu d'une forêt où il n'y a aucun être humain.
Non, mais t'auras le nez qui coule.
Ouais,
t'auras ça, c'est peut-être le rhume colombien. Ça, c'est un autre.
Colombien.
Mais je ne peux pas attraper de.
Non,
il faut
froid,
qu'il y ait un
virus qui arrive.
Attraper froid, c'est une façon de dire comme il fait froid, tu as plus de risques d'attraper de la maladie qu'un humain va te transmettre.
Oui, c'est bien résumé. Ou quand il fait vraiment très froid, comme normalement le nez, c'est un humidificateur et ça permet de réchauffer l'air qui est beaucoup trop froid, qui viendrait brûler les poumons. Sauf que quand il fait très froid, ton cerveau comprend que finalement l'air, elle va pas être réchauffée correctement et donc ton nez se met à couler pour refroidir.
Le métabolisme.
Et pour réchauffer le nez et faire en sorte que l'air soit moins douloureux. Donc en fait, le nez qui coule en hiver, c'est normal. C'est pas une infection virale, mais on attrape froid. En réalité,
si j'ai un chat dans la gorge et que j'ai mal à la gorge, ça peut pas être parce qu'il faisait froid seulement.
C'est pour ça que les gens qui font des bains, ils font des saunas et ensuite ils vont dans le froid tranquille, ils attrapent pas froid, ils attrapent
douche,
aucune maladie.
Non, et
chaud froid.
Et c'est très.
Ils vont dans la neige, ils se mettent dans la glace comme ça.
Et j'ai testé ce truc-là en Finlande, dans le nord. J'ai été me baigner dans un lac glacé. Ensuite, sauna dans une tente, dans une forêt. Et en fait, on sent vraiment mieux. Et il y a une culture de ça, des bains froids.
Ça fait des endorphines, ça.
Exactement. Ouais. Sur l'instant, c'est atroce. T'as envie de mourir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et après, t'as cette sensation de bien-être et de plénitude. Et tu te dis, ah ouais, c'est un délire. Et donc, c'est un truc à tester, en fait, vraiment l'eau froide. Alors, certains vont dire que ça permet de renforcer le système immunitaire et tout le tralala. Il n'y a pas d'études qui le prouvent.
Il y a les pores de la peau, sinon, si ça ouvre les pores de la peau, le sauna, ça fait.
Ça dit là, toi, t'élimines soi-disant les toxines. En voilà. Tout cas, c'est un rituel. Et c'est un truc qui est bon pour la santé. Et le sauna, par contre, on a prouvé que ça protégeait des maladies cardiovasculaires. C'était protecteur pour le cœur, le fait de faire des saunas.
J'ai vu une dame qui avait des problèmes au cœur et qui avait un mini sauna chez elle. On lui avait carrément conseillé de...
Oui, c'est remboursé par la Sécu, ça ou...
Je sais pas si c'était remboursé par la Sécu.
Elle avait trouvé une belle fraude à la Sécu.
Ouais, je sais pas si c'était remboursé, mais en tout cas, c'était pour des raisons de santé qu'elle avait pris.
Et en Finlande, disons des saunas.
C'était pas un sauna kiffant, tu vois. Ouais. C'était une espèce de cabine téléphonique, mais que ça fout là.
Ah ouais, en fait, le concept est quand même poussé assez loin.
On l'a conseillé pour le cœur, etc.
Jimmy Mohamed, t'as sorti un bouquin, 39 astuces pour perdre du poids. Tu déconseilles de faire des régimes.
Exactement.
Voilà, justement, c'est hyper intéressant comme bouquin. C'est très cool, c'est très fun. Vraiment, ça te parle directement. C'est pas du tout. C'est pas technique, c'est très simple, c'est vraiment didactique. Voilà ce que j'espère que c'est à l'auteur de cette émission parce qu'on voulait vraiment exprimer 2-3 trucs. C'est très riche, il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'il faudra la revoir. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de choses dans cette émission qui ont été dites et je pense qu'ils sont assez justes et qui vont, j'espère en tout cas, vous aider à aller bien. À aller bien.
C'est le but.
Comme vous l'êtes. C'est-à-dire, comme vous vous sentez bien, bah, ça suffit déjà. Si vous sentez bien, vous posez pas de questions, continuez sur l'autoroute. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, les amis, dans la vie?
Ouais, moi, je suis ce que je mange, c'est bien.
C'est-à-dire, tu deviens vraiment.
Tu manges de la merde, tu deviens une grosse merde, quoi. Voilà. Tu manges bien, tu te sentiras mieux. C'est aussi simple de le résumer à ça. Ouais. Je parle en termes.
Je mange du génie, moi.
Tu sens que ça t'a vraiment influencé. Ce que t'as mis à l'intérieur de toi, ça t'a influencé.
C'est gravé maintenant. Si je sais que quand je vais me laisser aller, mon corps, ça sera le résultat. Et le poids, c'est juste dans la tête. De regarder un chiffre, c'est rien. Ça, c'est souvent un complexe de maigre. On va atteindre des fois le quintal pour se sentir homme ou puissant et tout. Mais en fait, l'important, c'est le reflet dans le miroir. Comment tu te sens, en fait, le plus important. Gros, mince ou pas, c'est comment tu te sens avec ton corps.
Et on peut parfois souffrir de dysmorphophobie ouais.
Ou de bigorexie, qui est l'inverse.
D'accord. Donc ça, pareil, ça c'est une maladie. On peut se
voir comme
aider.
Mec, longtemps, tu te vois avec ta version la plus... la moins valorisante de toi, il y a celle-là.
Mais on peut se faire aider par un médecin.
Oui, mais c'est souvent favorisé notamment par les réseaux sociaux, parce que maintenant, on voit que des gens beaux, les filtres et tout le tralala. Donc ça aussi, ça a une influence, notamment chez les jeunes. L'image de soi, elle est construite différemment. Nous, on est un peu vieux, et donc on
sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai.
Exactement, mais les jeunes, ils ont grandi dans ça.
Avec les selfies.
Eh oui.
Et déjà, ça déforme et tout, mais quand tu te rappelles, moi, je n'ai pas aucune photo de moi qui traîne avant... avant l'âge de 20, 21, 22, j'ai pas énormément, à part ce qui reste dans les books familiaux. Mais on se prenait pas tout le temps en photo. Ouais, je passais pas mon temps devant le miroir. Je les fuyais, les miroirs.
Je voulais pas les voir, moi. C'est horrible ce qu'il y a là-dedans. Je voulais pas le voir. Maintenant, j'adore ce qu'il y a dans le reflet. Je suis fier.
Jimmy, meilleur conseil qu'on t'ait donné?
De profiter de l'instant présent. C'est la gratitude, d'être reconnaissant. Et c'est vrai qu'on vit une période un peu bizarre, il y a des trucs un peu tristes en ce moment, il y a toujours des trucs tristes. Et de se dire, bah, en fait, j'ai de la chance de. Et c'est à vous de placer le « de » où vous voulez.
D'avoir mes deux jambes, tu sais, comme voilà. Tu parlais hier.
J'ai la chance d'avoir mes deux jambes. J'ai la chance de partager ce repas avec mes enfants. Et des fois, on oublie, en fait, la chance qu'on a. Même d'avoir un travail, de juste marcher dehors, de profiter de l'instant présent. Moi, je me suis rendu compte que la vie était parfois, on va dire, injuste ou écrite d'une certaine manière et qu'on ne sait pas quand est-ce que tout va s'arrêter. Donc, profitez de l'instant présent. Au moins, vous aurez profité du moment. Mais la course à la richesse, à la gloire et tout le tralala, c'est bien, mais c'est pas ce qui rend heureux en réalité. Et voilà, profitez du moment présent, profitez de ceux que vous aimez tant que vous pouvez, et voilà, soyez reconnaissant de tout et de rien. Et d'ailleurs, ça a des pouvoirs sur la santé. On a montré que les gens qui exprimaient de la gratitude, eh ben finalement, étaient ceux qui vivaient un peu plus longtemps, en meilleure santé. Donc voilà, soyons tous reconnaissants. Moi, je suis reconnaissant d'avoir passé ce moment avec vous.
C'était très vraiment. Cool, très
et
cool.
Et ne culpabilisez pas d'être heureux, surtout.
Ça me paraît une bonne façon de conclure. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle? Quelque chose, un artiste, une artiste, un livre peut-être? Quelque chose qui vous a marqué dans la vie? Ça peut être actuel, ça peut être quelque chose qui vous a marqué dans votre vie.
Le reportage qu'il a cité tout à l'heure de Game Changer sur Game Netflix, Changers. Il est super à regarder si vous vous intéressez à votre corps et à stopper peut-être la viande, le
poisson. En tout cas, l'a diminué.
Ouais. S'intéresser vers le véganisme, mais en tout cas, s'intéresser à ce que propose la nature en termes de protéines. Voilà, dans les légumineux.
Les pois chiches, les lentilles. Les lentilles, c'est vraiment le super aliment.
Bien sûr, c'est riche en
le
protéines.
Le tofu, c'est
super. Des protéines pas chères.
Les haricots.
Ben oui, ça coûte pas cher.
Ça fait teps un peu.
Ouais, un peu, ouais, t'as raison.
Teps lambda. Teps lambda. Le houmous, teps lambda.
Houmous plus piment, là.
Mais cela dit, les lentilles, on n'en parle pas assez, mais c'est un aliment incroyable.
Complètement, c'est incroyable, les lentilles.
Ça coûte pas grand chose, c'est très très bon.
Et c'est rassasiant. Tu manges des fibres, des lentilles, t'as plus faim.
Recommandation.
Alors moi, je suis pas très grand lecteur, mais il y a un livre qui m'a marqué. C'est Oscar et la Dame en Rose.
Oscar et la Dame en Rose.
Ouais, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en première année de médecine.
Ouais.
Donc c'était en 2006. Ça fait très très longtemps. C'est l'histoire d'un petit enfant qui est hospitalisé parce que c'est une histoire hyper triste, qui a un cancer. Il sait qu'il va mourir. Il a cette dame en rose qui est une infirmière et qui va décider de vivre chaque jour comme si c'était une année. Et donc il lui reste pas beaucoup de jours à vivre et il profite de chaque jour comme si c'était une année, ce qui nous permet de revenir à cette histoire de gratitude, de se dire « Ah, on a de la chance quand même en réalité, même si pour certains c'est compliqué. » Mais voilà, Oscar et la Dame en Rose, un super livre qui se lit très facilement.
D'accord.
Même pour ceux qui n'aiment pas spécialement lire, parce qu'il y a moins de 100 pages, mais ça permet de se dire « Ah ouais, la vie, elle peut être cool, même si des fois elle est difficile. »
Très bien. Navo, est-ce que tu as quelque chose à recommander, quelqu'un à recommander?
Extraordinaire. J'ai un doute sur le titre.
C'est une série.
Une série sur Disney Plus.
Extraordinaire. Oui, c'est une série sur une femme qui a des pouvoirs, c'est ça?
Elle en a pas. En fait, c'est dans un monde où à l'adolescence, tout le monde chope un pouvoir. Elle commence à être un peu plus vieille qu'adolescente et elle en a pas. Et tu suis la personne qu'on a pas dans un monde où les gens ont tous un pouvoir, voilà, et où ça fait un petit moment et donc tu vois. Par exemple, la scène d'intro est très cool, c'est la RH, sauf que la RH, elle a le pouvoir que tu dises la vérité. Et donc, t'assistes à des entretiens d'embauche, hein, tu vois, te dis alors toi, tu fais en fait, je branle rien, des fois j'arrive en retard.
Ça me rappelle un film où personne n'a le droit de mentir.
Il y a Menteur.
Non, avec Jim Carrey.
Ou alors il y a l'invention du mensonge, l'invention of lying avec Ricky Gervais.
Ouais.
C'est le mec qui invente le mensonge,
ouais.
Qui est un très bon film aussi. L'idée est bonne, le film se déroule.
Il se déroule.
Mais l'idée est très bonne.
La chute de la maison Usher,
ouais,
sur Netflix,
c'est ouf,
de Edgar Allan Poe, c'est très très ouf. Et ça a un peu un mix de American Horror Story, de la famille Adams.
D'accord, je n'ai pas trop entendu parler non plus.
Ouais.
Alors que le truc est ouf.
Ouais,
c'est hyper bien fait, c'est prenant et tout. Ouais.
Voilà, il y a du fantastique.
La chute de la maison Usher.
Ah ben, c'est noté. Alors de mon côté, moi je vous recommande Babord l'éléphant. Qui est très connu sur YouTube, mais qui se met au stand-up, et ainsi que Camille Fievez, qui est actrice et qui est autrice aussi, qui fait du stand-up, qui se met au stand-up, et donc allez suivre ça, c'est intéressant. Et ils ont un collectif ensemble, ils font des vidéos et tout, allez suivre ça, c'est à mon avis, ça vous fera très très rire. Ils font un peu d'ailleurs des parodies de chroniqueurs qu'on peut les voir sur France Inter ou de ça, et c'est vraiment assez délicieux. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour nous, c'était une régalade. Mais comme à chaque fois avec tous les invités, et on les kiffe, vraiment, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Le livre de Jimmy Mohamed, Zéro Contrainte, à offrir à n'importe quelle situation. Vous faites une tartiflette, allez-y, offrez ce petit truc. Et puis, ne comptez pas, la morale, c'est il n'y a pas de foutu pour foutu. C'est un peu la morale de l'histoire.
Exactement.
Un foutu pour foutu, c'est le début du foutu pour foutu.
C'est dans la tombe, ça, c'est tout.
C'est qu'un début.
Tant qu'on vit, on peut changer.
Exactement.
Les chirurgiens disent tant qu'on pète, il y a de l'espoir.
C'est bon.
Il disait la chirurgien.
Non, pas du tout.
T'imagines les brigades. Mais tant qu'on pète, il y a de l'espoir.
C'est quand même le chirurgien, t'es sûr, on se met d'accord sur ce slogan.
Ouais, tous.
Je jouis, donc je vis.
Ça me va.
Toi, là, avec la nostalgie.
Mais mec, cette histoire, elle est incroyable. Je te jure, mais je me rappelle de toi.
Je bande donc je suis, je jouis donc je vis.
Ça me va. On terminera sur ces beaux mots de Segbeko.
C'est vrai.
Bisous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.